Il ne retenait.
The remix.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit. Nuit noire.
La nuit, c'est un sacré tapin qui marche sur les mains. La nuit, ça cause avec le vent, ça chante doucement. Oh nuit,
notre vie est un voyage comme il fait et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage comme il fait et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage, notre vie est un voyage. Notre vie est un voyage comme il fait et dans la nuit.
La nuit,
comme il fait et dans la nuit. Dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver, dans la nuit.
La nuit et l'hiver.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Les dieux sont dingues. Passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches. J'ai la pétoche. Les dieux sont braques. Passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches. Passe-moi la hache. Ils nous auront. Moi, j'ai les jetons. Les dieux sont chiens. Passe-moi le rouquin. Les dieux ont faim. Passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes. Ça sera ta fête. Les dieux sont trop. Passez-moi le mot. Les dieux sont quoi? Passe-moi le poignard. Les dieux sont rosses. Planquer les gosses, c'est des faux jetons. Passe-moi le canon. Les dieux sont sous. Lâcher les loups. Ils sont injustes. Qu'est-ce qu'on déguste? Les dieux se couchent. Lâcher les mouches. Les dieux ont faim. Passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes. Ça sera ta fête. Les dieux sont trop. Passez-moi le mot. Les dieux sont dingues. Passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches. J'ai la pétoche. Les dieux sont braques. Passe-moi le cognac. Les dieux s'en fichent. Passe le hashish. Les dieux sont myopes. Dansons le bebop. Les dieux sont sourds. Faisons l'amour.
Radio Libertaire, la nuit noire, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous écoutez Radio Libertaire, que vous retrouvez bien sûr sur le 89.4 FM à Paris et www.radio-libertaire.org. Je ne suis pas seul ce soir puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Yvan Perret. Bonsoir Yvan.
Bonsoir d'avoue et bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent ce soir sur Radio Libertaire.
Nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Nuit Noire, c'est la première fois que nous nous y rencontrons. En revanche, nous nous étions croisés dans l'émission Le Ferry Club. Tu es venu à deux reprises, une première fois pour nous parler de ton rapport d'individu, une deuxième fois tu as eu la gentillesse de nous produire une émission musicale fort savoureuse qui a été très appréciée. Et ce soir, nous nous retrouvons pour parler non pas de Léo Ferré, mais de Jean Ferrat, puisque tu signes ce livre qui s'intitule « Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps » aux éditions Le Bordelot et dans la collection « Le miroir aux chansons ». Et nous allons bien évidemment parler de Jean Ferrat en long et en large, mais plus particulièrement de ses chansons, puisque ton livre porte sur ses chansons de manière plus spécifique, hein, davantage que sur sa vie. Mais avant de rentrer dans les considérations à propos de ton livre, je voudrais interroger un petit peu ton rapport d'individu avec Jean Ferrat. Et peut-être commencer à partir d'un élément de ton livre, parce que je crois que ça part de là, de la dédicace qui figure au début de ton livre à ma mère, Eliane Chardon.
Ah oui, c'est deux personnes différentes. Hein.
Ah.
Ah oui, à ma mère, virgule. Et en dessous, à Eliane Chardon.
Ah, très bien. Je pensais que, c'était, que ta mère s'appelait Eliane Chardon.
Non, non, non. C'est deux personnes différentes, mais c'est une bonne... c'est bien de le souligner, effectivement. Alors, j'explique aussi dans l'avant-propos, puisqu'il y a un avant-propos, où j'explique, c'est le principe de l'avant-propos, pourquoi je fais ce livre et dans quelles conditions j'ai fait ce livre. Et j'explique que j'ai été un peu biberonné à Jean Ferrat étant enfant, puisque ma mère aimait Jean Ferrat, comme beaucoup de gens de sa génération. Et c'était les années 60, et il y avait cette voix qui résonnait dans la maison, la voix de Jean Ferrat, qui est en plus une très jolie voix. Et donc, ça fait partie un peu de, que je le dis, de la bande-son de notre histoire, mais c'est la bande-son de ma vie aussi. C'est-à-dire, j'entendais cette voix. Et puis aussi, on a déjà parlé d'autres voix, mais celle de Ferrat, beaucoup. Et donc, j'aurais aimé que ma mère soit toujours là. Elle nous a quitté il y a déjà une dizaine d'années, même un peu plus. Parce qu'elle aurait été contente, je pense, que de voir ce livre, de voir que 50 ans plus tard, j'ai fait un livre où je parle de ces chansons, dont certaines que beaucoup j'ai découvertes à ce moment-là. Alors, Eliane Chardon, alors je peux l'expliquer, mais c'est bien d'en parler, c'est la maman de ma compagne. Et c'était une dame qui est décédée alors très récemment, il y a à peu près un an. Et elle avait, donc je la connaissais, elle a toujours milité dans le parti. Elle était âgée, elle commençait à être fatiguée, mais elle avait beaucoup aimé mon livre précédent sur Georges Brassens. J'avais fait un livre sur Brassens. Absolument. Il y a 4-5 ans, on en a parlé.
Absolument.
On a parlé de Georges Brassens. Et je lui avais dit, j'ai eu le temps de lui dire, j'ai un projet sur Jean Ferrat. Elle m'a dit, oh, j'ai hâte de le lire. Puis malheureusement, voilà. Le temps que ça se fasse, parce que c'est toujours compliqué de faire un livre et puis de trouver un éditeur. Enfin bref, elle était malade et elle est décédée. Elle ne pourra pas lire ce livre alors qu'elle se serait vraiment... Je crois que j'aurais aimé pouvoir lui montrer, lui faire lire. Donc j'ai une pensée aussi pour elle. C'est pour ça qu'il y a cette dédicace avec ces deux noms. Voilà, qui sont deux dames à peu près de la même génération, et qui, elles, ont vu Ferrat débuter, l'ont aimé et l'ont connu, et voilà.
Et alors, de la même manière que toi, est-ce que ta compagne a été biberonnée à Jean Ferrat aussi ?
Oui, bien sûr, et puis à d'autres, alors elle est plus jeune, mais oui, pour elle, c'est important, et puis elle était vraiment... j'aime pas ce mot, mais elle était vraiment fan. Elle essayait de le voir à Entraigue, d'y aller. Elle était. Donc, elle était. Elle était complètement. Alors, c'est aussi sur son insistance. Elle dit, tiens, je vais te faire un livre. Bon, c'est une façon de. C'était un défi, quoi. Faire un livre sur Ferrat, alors que j'avais pas l'intention il y a quelques années. Parce qu'il y en a eu. Il y a eu des biographies. Des biographies que Ferrat, c'était pas trop son truc. Il aimait pas trop. D'ailleurs, elles sont toutes parues, je crois, après sa mort. Sauf peut-être la première. Mais c'est compliqué. Enfin bon, et puis, alors quoi faire et
sous quel angle, voilà.
Sous quel angle prendre Jean Ferrat sans faire de biographie qui m'intéressait pas non plus. Et je me suis dit, pourquoi pas parler des chansons et de choisir quelques chansons et d'en parler et d'analyser ces chansons.
Tu parlais de ton avant-propos tout à l'heure. Et dans ton avant-propos, tu parles d'une chose qui m'a marqué, que je trouve importante. Tu parles d'une époque, l'époque de Jean Ferrat,
oui.
Une époque où les chansons se transmettaient.
Oui.
Une manière un peu de trancher avec ce qui se passe aujourd'hui à notre époque, où on est un peu des consommateurs de musique.
Oui, absolument. Ben c'est ça, parce que les chansons se transmettaient que j'entendais les chansons qu'écoutaient mes parents, et qu'en vacances, en colonie de vacances, on chantait les chansons que chantaient ce qu'on appelait les moniteurs de vacances qui avaient 10-15 ans de plus que moi et qui venaient avec leurs chansons, donc ça se transmettait. Et c'est quelque chose qui se fait plus. On entend souvent des gens de notre génération, même des gens plus jeunes que moi, qui disent cette chanson, je me souviens, ma mère la chantait, je l'écoutais. Bon, même si quand on est adolescent, on veut tout écouter sauf ce qu'écoutent ses parents, quoi. Oui. On écoute au contraire un truc qui est fait. Bon, voilà. Mais ça, c'est compréhensible. Mais donc, ça se perd un peu, puisque maintenant, il y a ces écouteurs terribles. On voit les gosses de 15-16 ans qui se baladent avec ces écouteurs, qui écoutent leur truc jour et nuit et qui n'entendent pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors, sans faire un discours de vieux machin qui dit quand même que ça serait mieux avant. Donc, ça que je regrette un peu, et c'est, en tout cas, c'est ça qui a fait que j'ai fait ce livre-là, parce que ces chansons se sont transmises. Et je parlais de Brassens tout à l'heure. Le livre sur Brassens que j'ai fait il y a 4-5 ans, quand je fais des dédicaces, j'ai fait souvent des dédicaces à des gens qui m'ont dit « je vais l'offrir à mon père ». Parce que quand j'étais enfant, Il nous a écouté de Brassens, il adorait Brassens. Maintenant, là, il est fatigué. Il est... Je vais lui offrir ce livre-là, ça lui fera plaisir. C'est ça, c'est en, on est sensible aux chansons que nous transmettaient ou que nous écoutaient nos parents. Même si quand on est enfant, on dit « Oui, bon, d'accord », et puis après, on s'en souvient malgré tout. Mais moi, j'aimais ça, cela dit. Moi, quand j'étais adolescent, 13-14 ans, je commençais à... Alors, c'est là, mes copains, tous, enfin, les gens de mon âge... On allait plutôt vers Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, Led Zepp et compagnie. Et ben moi, j'allais écouter les chansons, acheter des disques de chansons françaises tout de suite. Moi, je me suis mis tout de suite, j'ai aimé la chanson. Ce qui m'empêchait pas aussi de... C'est vrai que si je voulais aller dans les soirées et voir des... Bon, j'arrivais pas avec des disques de Marcel Amon. Bon, j'ai aussi acheté Pink Floyd, mais quand même, c'était bien plus sûr, ces chansons.
Ça t'empêchait pas de savoir ce qui se passait dans l'air du temps, toi, dans la création musicale, bien sûr. Mais j'ai beaucoup apprécié que tu parles de cette idée de transmission, parce que c'est vrai que pour toi, comme pour moi d'ailleurs, la transmission se fait par parents. Mais c'est comme tu dis aussi, voilà, les copains, les parents bien sûr, les relations, les moniteurs de vacances ou quoi que ce soit. Mais il y avait le besoin de l'altérité, il y avait le besoin de l'autre aussi. On était dans ce moment-là où c'était quand même, on était davantage en interaction entre individus. C'était important cette notion. Pour rester sur ton rapport d'individu, tu en parles dans ton livre, je crois que c'est dans la conclusion, ta rencontre réelle avec Jean Ferrat, tu nous parles d'un souvenir ébloui.
Oui, c'était un concert qu'on avait fait avec le Centre de la Chanson. J'ai travaillé dans un centre qui s'appelait le Centre de la Chanson à Paris, qui n'existe plus. On avait fait un concert hommage à Ferrat, et Ferrat était là. C'était 2004,
voilà. Décembre 2004, au Théâtre Sylvia Monfort,
voilà, Théâtre Sylvia Monfort, dans le 15e. Il était là. Et c'est vrai, en fait, je mets ça, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans ces circonstances pareilles. Et à chaque fois, c'était un souvenir ébloui parce que...
Plusieurs fois, quand même.
Où j'ai pu parler avec lui. J'ai même interviewé une fois pour la radio, mais c'était au téléphone. Si, je le dis aussi dans le livre, c'est dans la chanson sur la montagne, les pages sur la montagne, où je cite un extrait d'interview, et c'est moi qui l'ai fait, cette interview. J'étais sur une radio qui s'appelait Radio Bleu et c'était la fête de la musique, je crois. Et pour ce jour de fête de la musique, j'avais une émission de 2 heures et on essayait d'avoir au téléphone 3, 4, 5 chanteurs qui évoquent une chanson qu'on choisissait, leur plus grand succès, leur chanson comme ça. Et on a eu, il y avait des gens comme Aznavour, comme eux, qui répondaient. Et j'ai eu Ferrat, pour parler de la montagne. Alors en même temps, ça l'agaçait un petit peu qu'on diffuse toujours cette chanson-là, parce que depuis, il avait fait autre chose. Mais en même temps, il expliquait le succès qu'a eu cette chanson, que même les Parisiens étaient des petits-fils ou des arrière-petits-fils de paysans, et puis que c'était aussi l'histoire de l'exode rural, enfin tout ce que j'explique dans le... Et donc là, je l'ai interviewé, mais je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai vu, je l'ai rencontré plusieurs fois, effectivement, mais... Un peu brièvement. J'ai pas eu une rencontre comme j'ai eu avec d'autres chanteurs autour d'une table comme ça où j'ai pu vraiment poser des questions. C'est un peu
rapide. C'était distant, quoi.
Oui, c'était distant. Alors, faut dire qu'il faisait plus de scène depuis très longtemps. Sa dernière scène, c'était en 1972 au Palais des Sports.
Oui, tu devais être assez petit en 72.
Oui. Et donc, je l'ai pas vu sur scène. Et après, il restait dans son village. Il venait juste à Paris une fois de temps en temps pour faire une télé chez Drucker quand il faisait un disque. Et puis, c'est tout, quoi.
D'accord.
Donc, alors, cela dit, là, il était venu effectivement pour cet hommage qu'on lui avait rendu, il était monté sur scène, tout le monde avait repris la montagne, il avait chanté a cappella la montagne. Alors en faisant des recherches pour le livre, j'ai vu aussi qu'il était à la fête de l'humanité, et un soir il a chanté des cerisiers a cappella, comme ça, devant tout le monde. Alors, mais c'est juste les gens qui sont là, qui peuvent témoigner, mais il n'y a pas eu de... ça n'a pas été filmé, je crois. Ouais, donc c'est un peu dommage, mais comme il ne chantait plus...
Et tu nous parlais donc de cette interview en radio, et tu as été un homme de radio, hein, puisque tu as animé une émission pendant... De nombreuses années sur France Bleu,
même plusieurs, Alors, il y avait une émission qui s'appelait Nos disques sont les vôtres, où c'est les gens qui choisissaient leurs chansons, et puis je racontais un peu l'histoire des chansons. C'était le week-end, tôt le matin, à 7h du matin, le samedi et le dimanche. Même Noël et jour de l'an. Et j'ai fait une série d'émissions l'été qui s'appelait On connaît la chanson. C'est le titre, je l'avais trouvé avant Alain Resnais, parce qu'Alain Resnais a fait un film qui s'appelle On connaît la chanson.
Oui, absolument.
Mais moi, j'ai fait l'émission avant, j'aurais dû déposer le titre. Et là, j'ai interviewé des auteurs de chansons qui racontent comment ils ont écrit ces chansons-là. J'avais eu Pierre Delanoé, Henri Comté, Jean-André Jacques, enfin ces gens qui ont écrit des chansons, pour la plupart sont décédés maintenant. J'ai eu Claude Lemel, qui est toujours vivant, des chansons qu'ils avaient écrites pour Piaf, pour Montand, pour d'autres. Et puis j'ai fait d'autres, oui, sur France Bleu, j'ai fait d'autres émissions où j'interviewais des acteurs, et puis sur France Musique, j'ai fait des émissions sur la chanson sur France Musique l'été, oui.
Et donc, dans le cadre de ces émissions, tu as eu l'occasion d'interviewer Jean Ferrat plusieurs fois, tu me disais?
Non, une seule fois.
La radio,
une seule fois.
D'accord.
Une seule fois.
Et tu as déjà mené des programmes en hommage, enfin, quand il est disparu, par exemple, ou des choses comme ça, est-ce que tu as déjà mener des programmes qui lui étaient dédiés précisément?
Non, alors il est disparu en 2010, hein, ça fait 15 ans. En 2010, j'étais pas à la radio, j'étais plus à la radio, donc non, j'ai pas. Je vais pas dire de bêtises, peut-être qu'une fois, je me souviens plus, j'ai dû passer 3 chansons de suite en disant. Voilà, mais non, je me souviens pas d'avoir fait d'émission spéciale sur Jean Ferrat.
D'accord. On va parler du livre, mais si tu veux, on peut peut-être commencer avec une chanson, si tu veux bien.
Ah ben quand même, oui.
Bah oui, écouter un peu de musique.
Et donc, il y en a fait 2 ou 3 qui n'étaient pas trop mal écrites. Donc
bah oui, et puis du coup, quelqu'un en a parlé dans un bouquin qui se lit bien.
On peut avoir des choses à dire, même parler de chansons qui ne sont pas dans le livre, hein, parce que... Il n'y en a que 20 dans le livre.
Oui, tu vois, je t'interrogerai à ce sujet-là, mais d'accord. Peut-être que tu peux choisir une première chanson que nous allons écouter ensemble.
Bon, écoute, je ne sais pas, là, je te laisse...
Est-ce que ça s'ennuie si on part avec Ma Môme? C'est la première
c'est
dont je parle.
Parfait, oui.
Et moi, c'est une de celles que j'aime énormément chez Ferrat, donc si tu veux bien, écoutons Ma Môme.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte-Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville sans sommeil, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Avec Yvan Perret ce soir dans La Nuit Noire sur Radio Libertaire 89.4 FM, nous évoquons le livre Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps, paru aux éditions Le Bordelot, et nous venons d'écouter la chanson Ma Môme, la première que tu évoques parmi les chansons qui sont énumérées dans ton livre.
Oui, parce que c'est par ordre chronologique, sauf les chansons d'Aragon qui sont à la fin, mais j'ai essayé de les faire par ordre chronologique, et c'est la première, c'est son premier succès. J'ai failli ne pas la mettre, d'ailleurs, c'est une des dernières que j'ai choisies, curieusement, parce que la plupart des chansons sont des chansons où il y a beaucoup à dire, où j'ai des anecdotes, et puis replacer les chansons dans leur contexte politique, sociologique, Nuit et brouillard, Ma France, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Ma Môme, alors c'est vrai que du coup, il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour, hein, mais, à part peut-être un poème d'Aragon, Ma Môme, je me suis dit, je pourrais écrire 3 pages sur Ma Môme, c'est une petite bluette amoureuse, ravissante, que tout le monde aime. Et puis comme j'ai lu, comme quand on fait un livre... J'ai passé beaucoup de temps avec Jean Ferrat dans les archives, dans les interviews, dans les documents. C'est passionnant d'ailleurs parce que on apprend des choses en faisant un livre en fait. On apprend plus qu'on en sait, qu'on croit en savoir. Et il dit quelque part, Ma Môme, c'est aussi une chanson contestataire.
Oui, ça m'a marqué ça.
Voilà. Ouais. Alors là, j'ai dit ça m'intéresse. Là, il y a un truc à faire. Pourquoi il dit que c'est une chanson contestataire? Alors j'ai réécouté ma môme, que j'ai dû écouter 15 000 fois dans ma vie. J'ai dit... Et en fait, c'est tout simple, bien évidemment. Alors, c'est peut-être un peu... Bon, peut-être qu'il a forcé le trait en disant que c'est une chanson contestataire, mais déjà, on comprend bien qu'il annonce la couleur. Il parle d'une... C'est un amour de prolétaire, c'est l'amour des petites gens, c'est la vie de ces gens-là. Comme il dit dans Ma France, je chanterai toujours celle des travailleurs. Voilà, ma môme, elle joue pas les starlettes, c'est l'anti, voilà, Press People, etc. On habite en Pantin, on peut pas aller en vacances, mais... On s'aime, c'est une chanson d'amour. Et donc, je trouvais, c'est bien. Puis en même temps, ça pouvait... J'ai parlé du mot « môme » parce que c'est intéressant de voir l'évolution du sens des mots et comment on dirait plus maintenant, aujourd'hui, enfin je crois pas, tiens, je te prends, c'est ma môme, en parlant de sa copine, c'est ma môme, parce que la môme, c'était aussi la jeune fille, comme dans « Jolie môme » de
Léo, bien sûr, oui.
De Léo Ferré, et d'autres chansons, Montand chantait une chanson qui s'appelle « Ma gosse, ma petite môme », enfin voilà. Et donc voilà pourquoi je l'ai mise, parce que c'est une chanson que très appréciée, et puis ça permet aussi de... oui, il annonce la couleur. On sent qu'il va parler de quand il fera des chansons d'amour. C'est sur ces amours-là. Et puis, oui, de parler de Pierre Frachet, parce que Jean Ferrat, c'est un auteur-compositeur, comme on le sait, interprète. Mais il y a plusieurs chansons qui sont écrites par d'autres. On parlera peut-être de Guy Thomas, qui avait écrit Les Cerisiers. Il y a eu Aragon, bien sûr. Il y a Georges Coulonges qui a écrit Potemkin. Et puis, quand il a fait les cabarets dans les années 50, Ferrat, 55, 6, 7, 8, là où ça, c'était un peu difficile, il a rencontré des auteurs, des comédiens, et Pierre Louqui, dont il a chanté une chanson. Et il a rencontré ce type-là qui s'appelait Pierre Frachet, qui est mort aussi, mais il n'y a pas très longtemps, je crois. Il est mort après Ferrat, qui était un comédien, auteur de chansons, qui a fait 3-4 disques. Moi, j'ai un disque de lui, d'ailleurs, j'ai trouvé une fois dans un vide-grenier, je crois, un 45 tours de Pierre Frachet. Là. Et donc, il a écrit cette chanson-là. Il a écrit plusieurs chansons. Regarde-toi, Paname, je crois, il y a une autre chanson de Ferrat, ou deux, qui sont de Pierre Frachet. Et donc, cette fameuse chanson « Ma môme », donc c'est bien aussi de le citer et de lui rendre hommage. Pour l'anecdote... J'ai lu, parce que je ne dis pas dans le livre ça, mais j'avais lu une interview de Pierre Frachet où il explique comment ça s'est passé avec Ferrat. Il dit, bon, Ferrat m'a dit, je vais mettre une musique sur ta chanson, je vais la chanter, mais il faudra peut-être supprimer « On fait l'amour en secret ». Ça me gêne un petit peu.
Ah ouais?
Ah oui.
Par pudeur?
Je ne sais pas. Il sait pas mais bon, il faut dire aussi, on était en 1960, hein, ou 59, c'est 59-60, ma môme. Hein. Donc à l'époque, une chanson, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chansons à l'époque où on parle de faire l'amour dans une chanson, hein, on met de côté les chansons paillardes, mais oui, une chanson évidemment. Qui est destinée à passer à la radio, comme ça, c'était... Et l'autre, il a dit non, et Pierre Frachet a dit ben non, je préfère qu'on le garde. Et donc voilà, Pierre Frachet raconte ça en tout cas, alors je trouvais ça tout à fait charmant, et c'est peut-être ce qui a plu aussi. Et je sais aussi ce que je dis dans le livre, c'est que le disque, c'est pas beaucoup, beaucoup vendu, mais ça a été la première chanson qui a été énormément diffusée en radio, encore les radios, puis à l'époque, c'était important, il y a des gens qui n'avaient pas la télévision en 60, hein, tout le monde n'avait pas la télévision, c'était la seule source pour écouter la chanson. Et la France entière connaissait cette chanson sans savoir forcément, sans connaître le nom de Jean Ferrat, qui n'était pas encore... Mais cette chanson, voilà, c'est une petite valse, ça dure 2 minutes, je crois, ou 2 minutes 30, ça passait bien, et donc ça a été son premier succès. Et donc je trouvais bien d'en parler dans ce livre-là.
C'est comme ça que Jean Ferrat arrive dans l'air du temps, d'une certaine manière.
Oui, d'une certaine manière, effectivement. Ouais, ouais.
Dans ton livre, on va revenir sur ton livre avec un peu plus de précision. On reviendra un peu plus tard sur ton avant-propos dans lequel tu livres les intentions de ce livre. Mais j'aimerais que tu nous parles de la préface intitulée « Jean l'humaniste » qui a été écrite à Aubenas le 21 décembre 2024 et elle est signée par Véronique Estelle. Qui est donc Véronique Estelle ?
Alors Véronique Estelle, c'est la fille de Christine Sèvres. Christine Sèvres, c'était la femme de Jean Ferrat, la première femme de Jean Ferrat, qui était chanteuse, qu'il faut écouter aussi, et qui est décédée en 1980 ou 81, décédée assez jeune, qui était la mère de Véronique Estelle. Et quand elle a rencontré Ferrat, Véronique Estelle avait 3 ans. Et alors son père, Ferrat est devenu son père adoptif. Alors elle dit joliment dans la préface, mon repère, hein. Mon repère, parce que bien sûr c'est Jean Ferrat qui l'a élevé, donc elle parle de lui en disant que c'est son père. Et donc elle a vécu tout ça, l'enfance, puisque je crois qu'elle avait 3-4 ans quand sa mère a rencontré Ferrat. Et donc elle explique dans cette préface tout simplement, Elle l'a vu écrire des chansons, elle l'a vu connaître le succès, elle a vu tout ça, donc c'est un témoignage extraordinaire, et elle a eu la gentillesse de faire cette préface. Véronique Estelle, oui, elle vit à Aubenas, c'est en Ardèche. Elle tient un petit théâtre qui s'appelle La Bobine, s'il y a des Ardéchois qui nous écoutent, La Bobine, où il se passe toujours des choses. Et donc, je suis allé la voir, et elle aussi, elle a lu d'abord le livre, elle m'a dit d'accord, et donc, gentiment, elle a fait la préface, et pour les gens qui connaissent bien l'histoire de Jean Ferrat, voir préface de Véronique Estelle, c'est déjà une garantie que, c'est pas tout à fait n'importe quoi, et je crois qu'elle a aussi apprécié le livre, et donc elle a eu la gentillesse de faire cette préface où elle parle surtout, elle raconte, et c'est elle d'ailleurs qui nous a fourni la photo de la couverture, c'est une très belle photo qui date des années 80, parce que c'est toujours compliqué les photos, faut retrouver les photographes. J'en ai retrouvé d'ailleurs quelques-uns, parce qu'à l'intérieur il y a des photos de pochettes de disques et de Jean Ferrat, et il faut dans un livre payer les droits aux photographes. Alors les gars qui ont pris des photos en 65, généralement, ils sont plus là. Et là, j'en ai trouvé qu'ils étaient toujours là, des gens âgés. J'en ai eu un ou deux au téléphone. J'ai expliqué mon projet. J'ai dit, vous m'enverrez le livre. Et puis, qui ont accepté, donc, gentiment, qu'on produise les photos qu'ils ont faites de Ferrat. Donc, je voulais aussi leur rendre hommage. En tout cas, voilà, Véronique Estelle a fait une jolie préface, effectivement, et nous a fourni la photo de la couverture, qui est donc la fille de Ferrat.
Et elle parle dans cette préface de, ça je ne savais pas, l'injuste réputation que son père, parce qu'elle dit vraiment mon père, avait d'écrire lentement. Je ne savais pas que Jean Ferrat avait cette réputation d'écrire lentement.
Oui, c'est parce que les disques... Alors, il y a eu la période d'Hartley... Clébard. J'écoute l'émission, je vois comment on parle des directeurs de maison de disques. Oui, bien sûr. Et là, justement, il avait la pression, il faisait un disque par an, pratiquement, ou tous les deux ans, entre 60 et 70, il y a eu un disque. Donc il fallait qu'il fasse vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faisait appel à d'autres auteurs. Mais après, quand il a pris son indépendance, à partir de 1980, quand il s'est retiré, qu'il a plus chanté sur scène, qu'il s'est retiré en Trègue, en Ardèche, et qu'il était dans la maison de 10 de Gérard Metz, enfin dans leur maison de 10, la Témet, voilà. Là, c'était un disque tous les 4-5 ans, et puis quand il en avait envie, quand il sentait qu'il n'y avait pas l'inspiration, il n'était pas pressé, il ne faisait pas de tournée, il jouait au boule sur la place du village, d'accord. Donc on disait, alors les gens le
pressaient... Ah, elle vient de là, la réputation.
Oui, alors voilà, parce que du coup, un disque, le dernier, c'était il y a 5 ans...
Mais en fait, elle se fait parce qu'autour, tout le monde se conforme aux exigences de l'industrie et produit.
Voilà, c'est ça, il y a un peu ça, et puis peut-être qu'il y a eu des périodes... Alors, je parlais de Christine Sèvres tout à l'heure, je sais que quand elle est décédée en 81, pour lui, ça a été difficile, et son disque suivant, c'était en 1985, c'est 5 ans après... Et je sais qu'il était incapable d'écrire, il était mal, il n'a pas écrit. Et c'est Guy Thomas qui a écrit tout le disque où il y a Je ne suis qu'un cri, disque Je ne suis qu'un cri, où Alice Rizier, La porte à droite, tout ça. C'est pas lui qui a écrit parce qu'il était incapable, a-t-il dit dans une interview quelque part que j'ai lu, il n'était pas en capacité d'écrire. Donc c'est pour ça, c'était pas comme Aznavour ou d'autres qui pouvaient constamment, tous les jours, qui écrivaient une chanson. Aznavour, il disait tous les jours j'écris, c'est un exercice. D'accord. C'est une gymnastique.
Oui, pourquoi pas.
Parce que j'ai interviewé aussi. C'est une gymnastique. Même, il n'a pas besoin, à la fin, à 85 ans, il se mettait à sa table, comme un sportif fait encore des...
Voilà,
il écrivait tous les jours. Alors, bien sûr, il pouvait faire des disques après, parce que dans le lot, il y avait toujours des chansons. Tandis que Ferrat, non.
Donc, cette préface, j'ai trouvé assez émouvante, je dois bien dire. Véronique Estelle parle de moments passés, elle parle notamment de moments avec son père et sa mère, elle dit mon père et ma mère, pour parler de Jean Ferrat, elle dit bien mon père, des moments avec Gérard Metz et Goraguer, voilà. Et puis elle écrit cette chose à la fin de la préface qui m'a beaucoup plu. Jean était un homme intègre qui répondait droit, comme on dit en Ardèche, bien planté sur ses pieds, un chêne, un châtaignier.
Mais un homme intègre, je crois que c'est ce qui plaisait aux gens. Quand je vois les commentaires aussi, la plupart des gens qui aimaient Ferrat, il y avait ce côté intègre, authentique, le gars qui a jamais retourné sa veste, qui a toujours été droit dans ses bottes, entre guillemets. L'expression est peut-être pas très heureuse, mais on comprend ce que ça veut dire.
Absolument.
C'est ça aussi qui plaisait aux gens. Il a toujours été fidèle à ses idées, à sa façon de vivre. Et il a dit aussi ce qu'il pensait, de façon, il aurait pu de temps en temps dire, quand il était en colère contre les gens qui défendaient ses idées, il le disait aussi. Donc c'est ça qui est le côté intègre et authentique, effectivement.
Je crois aussi que ça joue énormément. On se réécoute une petite chanson, Yvan ? Là, cette fois-ci, je te laisse la choisir.
Eh bien, je choisis alors une chanson qui n'est pas la plus connue, parce que alors, c'est vrai qu'il y a les chansons que j'évoque dans ce livre, la plupart sont des chansons incontournables, comme on dit, mais il y en a aussi quelques-uns, deux ou trois, qui sont moins connus, et c'est peut-être l'occasion de les découvrir, et en tout cas, dont j'ai aimé parler. Celle-ci s'appelle « Le sabre et le goupillon ».
Comme cul et chemise, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui ait su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon. L'un brandissant le glaive, et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon. Dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brèmeuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste, la nuit noire. Je suis avec Yvan Perret ce soir et nous évoquons son livre Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps. Nous venons d'écouter une chanson qui passe assez régulièrement dans cette émission, il faut le dire, mais tu as raison Yvan, qui n'est pas forcément l'une des plus connues de Jean Ferrat, Le sabre et le goupillon. Tu en parles dans ton livre, alors effectivement une chanson anticléricale, et tu parles de la volonté de Ferrat de trouver un ton juste pour parler politique sans écrire un édito, mais une chanson.
Avec un petit peu, avec une pointe d'humour, effectivement, parce qu'il disait que ça passait mieux comme ça, effectivement. Et puis, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les chansons anticléricales, je pense que sur Radio Libertaire, on en connaît pas mal. Il y a des chanteurs qui en avaient fait plusieurs, mais c'était pas le cas de Ferrat. Il y a pas beaucoup de chansons. Il y a des petites allusions. Il y a une femme honnête où il fustige un peu l'hypocrisie du clergé. Il y a une chanson qui s'appelle Mise à part
les
curés, personne veut se marier. Bon, mais voilà. Mais la vraie chanson anticléricale, Ferré en a fait plusieurs avec Monsieur Tout Blanc. Saint ou Satan, Brassens aussi, le Mécréant. Tachant. Mais ces gens-là, ils ont aussi passé leur enfance dans des pensionnats religieux, peut-être pas Brassens, mais Tachant, Ferré, donc ils avaient des choses à dire, ils ont vraiment souffert. Ferrat, c'était pas le cas. Et cette chanson-là qui est pleine d'humour, je trouve ça assez intéressant. Donc j'ai un peu étudié la question sur la chanson anticléricale, et puis la formule « Le sabre et goupillon » m'a toujours amusé, et j'ai découvert d'ailleurs que ça date du début du XXe siècle, et c'est Georges Clémenceau qui avait inventé cette formule-là, je le dis dans le livre, et donc qui était, c'était le premier ministre de l'Intérieur, je crois, le Tigre, hein, on appelait d'où les Brigades du Tigre, Mais il était farouchement anticlérical, hein. Il n'y avait pas. Donc, il était pour la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, c'est lui qui avait trouvé cette formule, le sabre et le coupillon. Et c'est vrai, comme le dit Ferrat, c'est comme cul et chemise, comme la ronce en foire. J'ai vu se constituer tant d'associations, il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction, le sabre et le goupillon. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon. C'est-à-dire que le clergé a toujours approuvé les massacres. Donc voilà, je trouvais ça assez joliment dit. C'était sur le disque, ça date de 65, c'est le disque Y a Potemkin, dans les 45 tours, donc je me souviens, donc je connaissais déjà... Très jeune, j'ai découvert cette chanson. Donc c'était bien d'en parler aussi.
Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le ton juste, de ne pas être dans le brûlot, de pas... Parce que c'est aussi la délicatesse, je trouve, de Jean Ferrat par rapport à Léo, tiens, par exemple.
Oui, c'est vrai.
C'est pas pour dire du mal de Léo, mais Léo, il y va...
Un peu plus rentre-dedans.
Voilà, rentre-dedans, absolument. Oui. Alors que Jean Ferrat... C'est pas qu'il veut arrondir les angles, hein, c'est pas ça, parce qu'il est quand même. L'intégrité de son propos, elle est là, elle s'entend, elle se fait entendre, il n'y a aucun souci. Mais il est quand même peut-être un peu plus tendre, un peu plus. Je sais pas quel mot utiliser.
Puis là, il y a une petite pointe d'humour, c'est un peu plus léger. Si on fait pas trop attention aux paroles, on peut la chantonner comme ça.
Absolument.
Le sabre, le goupillon.
Bah, l'air aussi.
Elle chantonne bien, la musique compte beaucoup, bien sûr, c'est important. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est bien aussi d'écouter cette chanson, Le sabre et le goupillon.
Ton livre s'appelle Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps. Dans la volonté de ce livre, bien sûr, l'idée de transmettre ton goût, de partager un peu ton goût pour Jean Ferrat, ça tombe sous le sens, mais ça vaut quand même la peine de le répéter. Tu t'intéresses à la, si on peut dire, alors ça, paf, on vient d'écouter le sabre et le goupillon, donc si je parle de la genèse d'une chanson, ça risque d'être problématique aux oreilles de certains auditeurs, certaines auditrices. Parlons de l'origine. Tu parles donc de l'origine de certaines chansons de Jean Ferrat, effectivement, des chansons d'espérance, de colère et d'amour, j'ai relevé cette manière de les décrire que tu as dans ton livre, et tu tiens aussi... Après la chanson, alors tu procèdes par ordre chronologique, on l'a dit, mais peut-être le répéter maintenant, et tu tiens après chacune des chansons à apporter des éléments de contexte, aussi bien sur la vie de Jean Ferrat, un peu plus dans le descriptif de la chanson, mais ensuite, il y a des petites notices dans lesquelles tu nous parles, soit de vocabulaire qui ont un peu disparu, hein, on parlait tout à l'heure justement de la baume, mais aussi d'éléments historiques qui nous permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel sont écrites ces chansons.
Ben oui, parce que tout simplement, la plupart de ces chansons, je suis en train de regarder les dates, hein, parce que j'ai mis la date à chaque fois, sont des chansons qui datent des années 60, 63, 65, 70, 80, 85. Donc c'est quand même des chansons qui ont 40 ou 50 ans. La plupart, on parle de chansons quand même, 40, 50 ans. Je ne sais pas si dans 50 ans, on sera en 2075, si on parlera, si on écoutera, si on évoquera les chansons des années 2020. Et il faudra peut-être aussi, si ça se fait, je ne sais pas, nous, on sera peut-être plus là pour en parler. Hein.
Il y a des chances.
On sera fatigué, on sera très sourd déjà, on ne pourra plus écouter. Et il faudra peut-être expliquer, ah ben oui, mais en 2020, il y avait ça, ça. Bon, ben là, c'est un peu pareil. Et j'ai pensé un peu naïvement, s'il y a des jeunes, ou même des moins de 35 ans, 40 ans, qui lisent ce livre, c'est peut-être bien de leur expliquer que certaines choses, pour bien comprendre... la chanson La Montagne, et je fais effectivement un petit encadré sur ce qu'on appelait l'exode rural, comment ça se passait, comment étaient les campagnes à l'époque, dans les années 60, au début des années 60, justement, dans le village d'Ardèche, il y avait des gens qui vivaient dans les... Il n'y avait pas forcément d'eau courante, il fallait aller au puits, les toilettes étaient au bout d'un jardin, c'était bon, enfin des choses comme ça, il n'y avait pas forcément chauffage, des conditions de vie difficiles, ce qui fait que les jeunes qui sont arrivés, ils ne voulaient pas reprendre l'affaire, ils préféraient aller dans la ville du coin où il y avait les premiers HLM avec des salles de bain, etc. Bon, j'explique un petit peu ça. Potemkin, c'est pas mal d'expliquer qu'est-ce que c'est que Potemkin. Je suis pas sûr que tout le monde sache l'histoire du cuirassé, Potemkin, et pourquoi cette chanson-là. Et puis d'autres chansons. Pauvre Boris, j'évoque bien sûr Borisian. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Ça évoque mai 68. Je fais à ma manière, donc j'explique un peu ce qui s'est passé en mai 68. Et comment a réagi aussi des gens comme Jean Ferrat, et puis ma France, etc. Je parle de ma France, j'explique qui était Adolphe Thiers, par exemple. Enfin voilà, donc je trouve que c'était... Alors il y a un côté un peu, je voulais éviter... un peu pédagogique, un peu ancien prof qui rappelle un petit encadré comme dans les livres scolaires pour dire voilà, on rappelle là, les cerisiers, je parle du temps des cerises. Bon, il y a ce côté le bilan, je parle bien sûr du goulag, la guerre froide, etc. Bon, il y a peut-être un côté un peu je l'ai fait d'ailleurs, j'avais écrit à un éditeur de, comment on appelle ça, les éditeurs parascolaires là, qui font des livres pour les lycéens, pour les... Et je crois que j'avais envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse, à un éditeur parascolaire en disant est-ce que ce projet vous intéresse, étudier l'histoire du XXe siècle à travers les chansons, quoi. Ah ouais. Alors dans ces cas-là, j'aurais étoffé plus la partie historique, et puis bien bon, sûr. J'aurais fait autre chose, je me suis dit tiens, là, il y a un truc à faire. Et avec les liens sur YouTube, enfin, faire un truc comme ça, ça sera peut-être, ou ça s'était peut-être déjà fait. Où les jeunes disent, tiens, je découvre Adolphe Thiers, La Commune, bah tiens, on écoute la chanson, La Commune ou Ma France, enfin voilà. Et donc il y a ce côté-là un peu pédagogique de dire, de replacer les choses dans leur contexte. C'est des chansons qui ont plus de 50 ans. Et je me dis, il y a peut-être deux, trois choses à voir et à comprendre. C'est pour ça, j'en reviens à Ma Môme. Ma Môme, il n'y a pas, à part l'histoire du mot môme, mais bon, voilà, il n'y a rien à expliquer sur. Bon, tandis qu'il y a d'autres chansons, il y a beaucoup de choses à dire.
On peut peut-être repartir justement en chanson, sans réécouter une petite.
Bah oui.
Là, cette fois-ci, si tu veux bien, on va écouter Pauvre Boris. Ça te va ?
Tu veux que j'en parle avant ou après ?
Oh bon, on l'écoute et puis on en parle après.
Très bien.
Tu vois, rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés. Les cons n'arrêtent pas de voler, les autres de les regarder. Si l'autre jour on a bien ri, il paraît que le déserteur est un des grands succès de l'heure quand c'est chanté par Anthony. Pauvre Boris. Voilà 15 ans qu'en Indochine, la France se déshonorait. Et l'on te traitait de vermine, de dire que tu n'irais jamais. Si tu les vois sur leur guitare ajuster tes petits couplets avec 15 années de retard, ce que tu dois en rigoler. Pauvre Boris. Ils vont chercher en Amérique la mode qui fait des dollars. Un jour, ils chantent des cantiques et l'autre, des refrains à boire. Et quand ça marche avec Dylan, chacun a son petit Vietnam, chacun son nègre dont les os lui déchirent le cœur et la peau. Pauvre Boris. On va quitter ces pauvres mecs pour faire une Java d'enfer. Manger la cervelle d'un évêque avec le foie d'un militaire. Faire sauter à la dynamite la bourse avec le Panthéon pour voir si ça tuera les mythes qui nous dévorent tout du long. Pauvre Boris. Tu vois, rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés.
Pauvre Boris, à l'instant même, dans la nuit noire, sur Radio Libertaire, je suis en compagnie d'Yvan Perret, nous parlons de ton livre, Yvan. Et justement, tu nous parlais un petit peu de ces notices qui accompagnent chacune des chansons, alors je vais m'en référer au chapitre 7 qui s'intéresse à Pauvre Boris, tu vas nous parler peut-être de la chanson dans quelques instants. Mais juste après l'analyse que tu fais de cette chanson, tu ajoutes donc ces petites notices qui sont bien intéressantes. Alors tu parlais effectivement des gens peut-être qui sont jeunes, qui vont avoir besoin de ces repères, mais je te dirais que pour moi qui suis un peu moins jeune, les revoir, relire tout ça un peu, se rafraîchir un peu la mémoire avec tout ça, ben ça fait du bien mine de rien, et puis ça peut aussi interroger notre curiosité. Là par exemple, pour Pauvre Boris, tu nous ajoutes trois petites notices. La première concerne les yéyés, la deuxième les protestes song, et la troisième la guerre d'Indochine. Les yéyés, c'était une époque voilà, qui était yéyé, je sais pas comment on peut les décrire, tu trouves forcément
cite,
les mots.
Il cite un chanteur dans la chanson, il cite un chanteur qui appartient au mouvement yéyé. C'est Richard Anthony.
Oui, tout à fait, quand elle est chantée par
donc,
Anthony, là...
Et voilà, mais est-ce que quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui, toi je dis 35 ans, je vise large, mais soit 20 ans, 35, 40, quand c'est chanté par Anthony, bon, je sais pas, c'est pas évident de savoir qui était-il, pourquoi il le cite, pourquoi...
Ouais,
c'est un peu violent d'ailleurs, cette chanson-là, je trouve.
Vis-à-vis de Richard Anthony, alors peut-être.
Vis-à-vis de... Il parle aussi de bouffer la cervelle d'un évêque avec le foie d'un militaire, enfin, oui. C'est une chanson très, très violente. Et oui, alors effectivement, il y a ces encadrés... Alors cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai toujours aimée, c'est une des premières que j'ai découvertes de Ferra, parce que c'est le premier disque que j'ai acheté, le disque où il y a Maria, où il y a Heureux celui qui meurt d'aimer, il y a un jour d'Aragon, et il y a Pauvre Boris. Et je suis pas sûr, la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'étais très jeune, je suis même pas sûr que je connaissais Boris Vian. Mais Pauvre Boris, je dis tiens, c'est un gars, il parle à son copain qui est parti... Et qui dit, mais tu vois, depuis que t'es parti, c'est terrible. Enfin bon, voilà. Mais j'entendais quand même la force, la violence des mots et de cette chanson, avec la belle orchestration d'Alain Goraguer derrière, très jazzy. Et on peut signaler
qui
ici...
Qui n'est pas n'importe qui par rapport à Boris Vian. Bah
exactement, que Goraguer a bien connu Boris Vian, qu'il l'a accompagné dans les cabarets, et qui a fait des chansons pour lui. Là, j'avais des bons atomiques, la musique, c'était Goraguer, je crois. Mm. Et qui a connu les moments dans les cabarets où il se faisait jeter, Boris Vian aussi. Donc c'est pas mal. Et cet hommage à Boris Vian, ben oui, ça mérite quelques explications. Le phénomène yéyé, effectivement, c'est Edgar Morin qui a trouvé ce mot-là. Il est toujours vivant, je crois, Edgar Morin.
Oui,
il a
possible,
son... 4 ans, un truc comme ça, qui écrivait dans Le Monde, et qui appelait ce phénomène yéyé, parce que c'était le début des Johnny, Sylvie, Claude, comme ça, qui faisait yéyé, bon, enfin, il explique ça. Donc, et on voit que Ferra, s'il aime pas trop ça, puisqu'il est apparu à peu près en même temps, lui, hein, au début des années 60, Jean Ferra, sur les ondes, parce qu'on parlait des radios. Et puis, il y a effectivement le phénomène de protest songs qui est arrivé aux États-Unis, avec John Baez, Bob Dylan et compagnie, des chansons où on proteste contre l'ordre établi, contre l'armée, puis il y avait les guerres du Vietnam. Et c'est devenu une mode, c'est ce qui dit un peu la mode qui fait des dollars, sans nier qu'il y a des très très bonnes chansons, et les gens que j'ai cités là sont des gens tout à fait honorables. Mais c'est vrai que quand on regarde les yéyés, il y en a qui ont repris, parce que Richard Anthony avait chanté Le Déserteur, ils avaient repris des trucs comme ça, alors que Richard Anthony n'était pas vraiment quelqu'un qui s'engageait dans les chansons, c'était pas... Donc c'est ça que veut dire Ferra, quoi, qui dit...
C'était quelqu'un de commercial, Anthony, à 100%
ah,
ou...
bah,
parce
oui.
que je m'en rappelle plus trop...
Oui, c'était, je veux pas dire du mal, on n'est pas là pour
non,
dire
non,
du
non,
mal.
Non, non, bien sûr que non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un gros décalage entre le personnage qui serait vraiment quelqu'un issu de l'industrie d'une certaine manière, et puis cette chanson qui, alors là, pour le coup...
Je crois, Richard Anthony, oui, c'était Nouvelle Vague, c'était J'entends siffler le train. Il avait une bonne voix, c'était joli, moi, j'ai écouté. Mais c'est pas un chanteur. Je pense que ce que veut dire Ferra ici, c'est que, tiens, il profite, il y a un truc à faire, il y a du fric à se faire.
Il y a un filon en ce moment.
On réadapte Dylan et machin, on chante ça, Le Déserteur, ça marche, parce que ça va être repris par... Puis alors, comme Boris Vian, c'est ça l'histoire aussi, c'est que le pauvre Boris Vian, comme on le sait, il est mort en 59, il est mort dans un cinéma, il a eu une attaque, hein. Il était jeune, il avait 39 ans, il n'avait pas 40 ans. Et il n'a jamais su le succès, parce que ses chansons, ben ça ne marchait pas, hein, ses disques. Il n'aura jamais su le succès posthume qu'a eu une chanson comme Le Déserteur, et qui a été reprise, la chanson, par tant de chanteurs, y compris par ces gens-là. Et donc Ferra a dit, mon pauvre, non seulement tu n'as pas vécu de ça, ça n'a pas marché, mais maintenant, si tu savais, n'importe quel crétin fait des millions avec tes chansons. Donc la mode qui fait des dollars. Donc là, on peut dire qu'il... Dans cette chanson, il dénonce un système, la perversité de ce système qui fait qu'on tire profit de tout, y compris de gens qui contestent ce système, quoi.
Bien sûr.
Et donc, voilà, c'est pour ça que cette chanson est assez forte, assez joliment faite aussi. Et puis, il parle de la guerre d'Indochine. Alors, ça, faut savoir aussi. C'est pour ça qu'il y a un petit encadré pour répondre à ta question. Puisqu'il dit, voilà 15 ans qu'en Indochine, la France se déshonorait et proteste son. Donc, j'essaie de replacer ça. Et c'est vrai que... Et le déserteur qui, effectivement, comme Mulugi avait créé le jour de la prise de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. Et donc, c'est pour ça aussi, c'est une chanson qui a une histoire. Moi qui m'intéresse à la chanson, je pouvais pas, c'est comme les cerisiers, il y a l'histoire du temps des cerises, je pouvais pas ignorer cette chanson-là, Pauvre Boris. Qui...
Bien évidemment. Et puis, si tu veux aussi, ce qui est un peu accablant, c'est que Richard Anthony et d'autres font un succès de cette chanson qui s'appelle Le Déserteur, dans sa version édulcorée, qui plus est, parce que oui. L'intention première de Boris Vian était de se montrer violent d'une certaine manière, ou en tout cas prévenir qu'il pourrait l'être, puisqu'il emporte une arme et qu'il s'est tiré. Et qu'ensuite, la chanson a été légèrement modifiée, puisque...
Mais avec son accord. Hein.
Avec son accord.
Avec son accord. C'est Mulugi, le premier, donc, en 54, qui dit, moi, je veux bien prendre la chanson, mais il a changé deux choses. C'était monsieur... il dit, messieurs que l'on nomme grand, veut dire monsieur le président. Et à la fin, il dit, c'est pas j'aurai une arme et je sais tirer, c'est je n'aurai pas d'arme. Et Boris Vian a dit d'accord, mais Mulugi a dit moi je la chante si on fait comme ça, parce que moi je suis un pacifiste, je veux pas, même contre des gendarmes, des militaires, je ne veux pas tirer. Ce qui se tient d'ailleurs par rapport à l'esprit de la chanson.
Absolument.
Et donc il dit je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, donc c'est Mulugi qui avait imposé ça, qui dit comme ça, et donc c'est pour ça. Alors Richard Anthony a pris cette version-là, Red Jenny aussi je crois.
La plupart, hein, je crois.
Oui, oui. Alors, monsieur qu'on nomme grand, il y en a qui disent, je crois qu'on a repris monsieur le président, c'est Mulugi.
Oui, quand même, oui.
Alors, le président, à l'époque, c'était René Coty, ou je sais pas qui. Bon, il disait, pourquoi monsieur le président, on va dire messieurs que l'on nomme grand.
Ouais.
Et messieurs que l'on nomme grand, c'est aussi ceux qui sont à la tête des deux puissances mondiales qui font les guerres, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi. Et donc, c'est intéressant.
On repart en chanson?
Pas de problème.
Tu nous choisis celle qu'on va écouter maintenant? Toujours dans ton livre, si tu veux bien, on écoutera
allons-y.
Peut-être une en extra de ton livre tout à l'heure, mais...
Alors, ça peut être Nuit et brouillard, ça peut être... Oui, Nuit et brouillard, c'est bien, c'est une chanson...
Si tu veux.
Oui, parce qu'il y a quand même des choses à dire, et puis c'est une chanson qui a vraiment son importance.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin. Regarde dans l'aurore, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Radio Libertaire, la nuit noire, nous venons d'écouter Nuit et brouillard. Écoute, je te laisse évoquer cette chanson, Yvan.
Ben, c'est une chanson phare. Alors, quand on parle de Jean Ferrat, on ne peut pas ne pas évoquer Nuit et brouillard. D'ailleurs, le choix des chansons s'est fait assez rapidement, parce que il y a au moins 10 chansons incontournables chez Jean Ferrat dont on peut parler, comme Ma France, Potemkin, La Montagne, Nuit et brouillard et quelques autres. Et Nuit et brouillard, c'est important, c'est une chanson importante à plusieurs titres. Déjà, c'est vraiment, je crois, la chanson qui l'a fait connaître au public. Je parlais de Ma Môme tout à l'heure. Succès de radio, les gens connaissent la chanson, on la fredonne. Il y a une chanson aussi qui est Deux enfants au soleil, je ne sais pas si tu te souviens, qui a été un tube d'été, et qui ne voulait pas enregistrer d'ailleurs, parce qu'il manquait une chanson sur un disque, et puis ils l'ont donné à Isabelle Aubray, puis lui l'a chanté. Enfin bref, ça a été un succès. Mais la chanson qu'il a vraiment... C'était avant La Montagne, hein, Nuit et brouillard. C'est Nuit et brouillard en 63 qui l'a fait connaître. Parce que, bon, on connaît la chanson, on vient de l'écouter, c'est une chanson sur la déportation pendant la guerre, des juifs et dans les trains. Il n'y a pas eu de chanson avant qui parlait de ça, on n'en parlait pas. Nuit et brouillard, ça fait référence à un décret de 1941 en Allemagne où disait tous les ennemis du Reich, tous les ennemis de l'Allemagne doivent disparaître dans la nuit et le brouillard. Mmh. Et c'était le titre d'un film aussi d'Alain Resnais, un documentaire d'Alain Resnais, qui a eu de quelques années auparavant, qui s'appelait Nuit et brouillard, où on montrait pour la première fois, on avait filmé les cadavres dans les camps. Et encore une fois, à l'époque, c'était une première. Et donc, on n'en parlait pas du tout, parce qu'il fallait, l'heure était un peu à la réconciliation entre l'Allemagne et la France, il fallait faire l'Europe. On peut voir des documents où De Gaulle serre la main à Adenauer, le chancelier allemand. Bon, je suis pas sûr que De Gaulle, d'ailleurs, ça lui plaisait beaucoup, mais bon, c'est l'esprit, on tourne la page, c'est fini, la guerre est finie, on est tous... Et Ferrat, lui, ben voilà, sa chanson, c'est ça aussi, c'est faut se souvenir, faut pas complètement oublier. Alors lui, son histoire personnelle, on peut rappeler que son père est mort dans les camps en 42, il avait 10-11 ans, Jean Ferrat. Un jour, son père est parti travailler ou faire des courses, puis il n'est pas revenu. Donc ça l'a marqué, et toute sa vie, il a pensé. Il a perdu son père à l'âge de 10-11 ans dans ces circonstances-là. Ils ont appris quelques 2-3 ans après que voilà, il est parti en fumée dans un camp. Donc je pense que pour lui, ça, c'était important. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette chanson. Alors la petite histoire que je raconte au tout début de la chronique, c'est qu'un jour il se promène sur une plage du Finistère. Il est d'ailleurs avec sa femme et sa fille, Christine Sèvres, parce qu'elle m'a dit qu'elle s'en souvenait. Et il y a des blocos. Il y avait encore des blocos. Et il y en a toujours d'ailleurs. Et il croise une dame avec sa fille. La fille qui dit, c'est quoi ça? Et la mère fait une réponse un peu vague en disant, oh, bah, c'est des trucs anciens. Enfin bon, voilà. Et elle explique pas ce que c'est. Et Jean Ferrat, il rentre chez lui en disant, mais il faut peut-être expliquer aux enfants pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il se met à sa table et il écrit la chanson Nuit et brouillard, et qui a eu donc, qui a fait cette chanson-là. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. On revient aux histoires de Yéyé dont on parlait tout à l'heure.
Quoi, bien sûr, ouais.
Il disait, mais voilà, moi je veux en parler pour transmettre. On parlait de transmission. Il veut transmettre. Et il a réussi, son pari, puisque la chanson a été un succès phénoménal, a été dans les livres d'école, les livres scolaires plus tard, a été étudié.
Tout à fait.
Et l'histoire de la radio, c'est que ce n'est pas passé en radio, c'était déconseillé. par le directeur de l'ORTF. C'était pas vraiment censuré, mais c'était déconseillé. Oh là là, on va pas passer ça, on passe justement, on passe plutôt Richard Anthony, on passe des chansons légères, on va pas se prendre la tête avec ça, parce que ça y est, maintenant, on n'en parle plus, on tourne la page. On était en 63, hein, tous les gens avaient connu la guerre à l'époque, hein, et les enfants entendaient leurs parents en parler. Donc, c'était quand même encore très présent dans les esprits. Et c'est donc à Europe, à l'époque, ça s'appelait Europe numéro 1, qui est une radio périphérique relativement jeune, plutôt destinée aux jeunes d'ailleurs, par rapport aux vieilles radios, Paris Inter, qui passait beaucoup de classiques. Là, c'était une radio pour les jeunes. Et un soir, Lucien Maurice, qui était l'animateur et directeur de la radio, je crois, ou qu'il a été un temps, il a dit, tiens, et si on passait cette chanson-là, n'hésitez pas à vous nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Et aussi, à l'époque, beaucoup de gens écoutaient la radio le soir. Hein, pas forcément la télé, mais la radio, c'est des millions d'auditeurs. Et ils passent cette chanson-là, et le standard explose. C'est-à-dire que vraiment, les gens appellent en disant « Mais repassez-la nous, c'est extraordinaire, on n'a jamais entendu une chanson pareille. » Et ça, c'est ça qui a révélé la chanson, et le lendemain, les disques se sont vendus. Quoi. Donc c'est une histoire quand même assez extraordinaire. C'est vraiment le public qui a choisi de mettre en avant cette chanson qui était interdite auparavant. Et qui a été le succès que l'on sait, qu'il a toujours chanté, et qui c'est vrai qu'il a bien, là aussi, quand on voit là, c'est pas facile d'écrire une chanson comme ça, hein, ça non, sort le soir, hein, moi je vais raconter l'histoire des déportés, et c'est pas facile, et bon, ben, faut reconnaître qu'il avait aussi ce don-là de pouvoir l'écrire, et ça passe, et il paraît même, c'est Jean-Louis Foulquier qui m'avait dit ça, qu'il a vu des gens danser là-dessus. Quand ça, oh, parce que c'est un tel succès que ça passait, c'était les 45 tours qu'on mettait dans les jukebox et tout, et que ça passait comme ça, comme une musique à la mode.
Un thème que reprendra Jean Ferrat, le thème de la déportation, dans Nul ne guérit de son enfance.
Oui, alors beaucoup plus tard, Nul ne guérit de son enfance, bah, il évoque son père. C'est la seule fois dans ses chansons, à part si on met de côté Nuit et brouillard, où il évoque le père disparu. Oui, effectivement, c'est beaucoup. C'est en 91, je crois, il avait déjà. Oui, il avait plus de 60 ans. Et il dit justement, quand l'âge vient, les souvenirs d'enfance reviennent, et puis il dit un père disparu. Oui, il l'évoque effectivement dans cette chanson-là, oui. Qui est moins connue, mais qui paraît-il, est souvent reprise dans les chorales, etc. Il y a des chansons qui ont une carrière comme ça. Voilà, tout le monde est comme les nomades, c'est des chansons que tout le monde reprend, et qui sont des chansons qui vivent toujours la transmission, parce qu'on les chante dans les chorales, parce qu'on les chante en famille, parce qu'on sent que ce soit forcément des chansons qui étaient dans les hits parades.
Absolument.
Donc c'est intéressant.
Et là, c'est pareil, tu nous fais une petite notice, hein, à la fin du chapitre consacré à Nuit et brouillard, tu nous parles un petit peu de la déportation, tu rappelles quelques réalités dans cette notice. Tiens, je te propose que nous repartions en musique et puis on va écouter une des chansons qui compose ton livre. Est-ce que ça t'ennuie si nous écoutons La femme et l'avenir de l'homme ? Ça te va ?
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison. L'image d'Ève et de la pomme, face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre ensemble, écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée. Tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Avec Yvan Perret ce soir dans La Nuit Noire, nous évoquons son livre « Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps » paru aux éditions Le Bord de l'eau. Et nous venons d'écouter « La femme et l'avenir de l'homme » et j'aime bien la perspective, la remise en perspective que tu fais dans ton livre. Cette chanson sort en 1975 et 1975, cela ne fait que 30 ans que les femmes votent, donc la moitié de l'humanité en France hein, quand même. Ça fait 9 ans que les femmes travaillent sans le consentement du mari, 9 ans que les femmes peuvent ouvrir un compte en banque, 2 ans seulement que le principe de travail égal, salaire égal pour les femmes est inscrit dans la loi. En 1975, ça fait quelques mois seulement que la loi instaurant l'IVG a été votée. Donc tout ça, c'est quand même très très récent.
Et c'est l'année où l'ONU a décrété l'année internationale de la femme, 1975. Donc le titre arrive à point nommé. Et effectivement, et c'est une chanson qui a eu un succès considérable. Ah oui. Et Jean Ferrat avait lu, je le lis dans le livre, les livres de Benoît de Groult, de Gisèle, elle connaissait Gisèle Halimi, enfin il s'est intéressé à ça, et c'est ça aussi qui lui a donné l'idée de faire cette chanson. On peut rappeler que ça vient d'un vers d'Aragon, « L'avenir de l'homme, c'est la femme ». Et il a eu cette trouvaille d'inverser un peu la femme et l'avenir de l'homme, ça a donné un slogan, quoi.
Ah oui, c'est sûr,
extraordinaire. Ouais. Et là aussi, alors, c'était aussi en 74, alors tout ce que tu as rappelé, c'est tout à fait vrai, bien sûr, c'est important de le dire. Et c'est un décret du 23 juillet 74, que Valéry Giscard d'Estaing, c'était lui le président à l'époque, hein. Mmh. Il a créé le secrétariat d'État à la condition féminine. C'était aussi assez nouveau à l'époque, avec Françoise Giroud, qui a été critiqué, parce que comme c'était pas vraiment un gouvernement de droite, on disait quand même... Bon, mais c'était Françoise Giroud qui était à la tête de ce secrétariat. Et donc, et c'est à Françoise Giroud que Giscard d'Estaing a demandé d'organiser cette année en France. Et donc voilà, je rappelle tout ça effectivement dans cette chanson qui a été un énorme succès, oui, auquel certains chanteurs ont répondu. Hein. Jacques Brel dans La ville s'endormait. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une très belle chanson, mais tout d'un coup il dit « Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. » Enfin, ouais, je ne suis pas sûr, comme dit un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme.
Bon. Il y a la réponse de Renaud aussi, que je connais davantage.
Oui.
« La femme est l'avenir d'un con, et l'homme n'est l'avenir de rien.
» Ouais, ben voilà. Donc pour dire que la chanson a fait couler de l'encre, pas mal. Alors, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais beaucoup de chanteurs, je veux parler d'horizontalement, beaucoup de chanteurs, les chanteurs qu'on aime, dont on parle toujours, ont souvent été taxés de misogynie. Léo Ferré avec son scaphandrier, oui, et puis d'autres chansons. Mmh. Brel, n'en parlons pas. Avec par exemple ce qu'on vient de citer de Brel, hein, les femmes, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Mmh. Brassens aussi, Nougaro. Les mains d'une femme dans la farine, je me souviens, qui disait que des féministes qui gueulaient dans la salle quand ils chantaient ça, parce que rien n'est plus joli que les mains d'une femme dans la farine. Enfin voilà, ils ont tous été taxés, sauf Jean Ferrat, parce qu'il a cette image d'homme qui défend la condition de la femme. Or, si on écoute des chansons moins connues, plus anciennes, il y a eu quelques chansons qui passeraient difficilement maintenant. Il y a une chanson qui s'appelle La Cervelle, qui est un peu la même histoire que La Scaphandrie, quoi. T'as tout ce qu'il faut, sauf la cervelle, quoi. Ouais. Et puis, une chanson qui s'appelle Ma fille, qui veut mettre en maison. Et puis, une autre chanson qui s'appelle Horizontalement, et qui est un exercice de style. En fait, c'est sur l'histoire des mots croisés, verticalement, horizontalement, mais il dit quand même... verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien, mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Mmh. Ça pourrait être du Gainsbourg.
Oui.
C'est du Ferrat quand même. Et c'est quand même. Bon, il s'en vantait pas trop, ces chansons-là, il les chantait plus à la fin. Enfin, mais je trouve que, bon, c'est amusant, c'est un peu jazzy. Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien, mais horizontalement, bon, ça passe.
Tu veux qu'on l'écoute ?
Écoutons-la, oui. Alors, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais il faut prendre ça sur
un petit mot en exergue pour dire, voilà, on prévient les gens.
C'est celui qui a écrit La femme et l'avenir de l'homme qui a aussi chanté ça.
Je la connais pas, donc. Écoutons-la.
Ah ben voilà, il faut l'écouter.
Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Je me sens le plus triste des cruciverbistes, car je suis... Derrière une grille seule où toi, ma fille, tu m'as mis pour trouver ta définition. Je n'ai pas 36 solutions. Belle comme l'amour, futée comme un balai, tu es la source de tous mes mots croisés. Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Après les extases, tu as quelques cases mal remplies. En libertinage, tu as pour ton âge du génie. En 5 lettres sur mon journal, on demande aux 3 verticales un mal qui peut se dissiper la nuit. En pensant à toi, j'ai trouvé l'ennui. Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Pourquoi dans nos phrases, tous nos mots se croisent pleins d'aigreur? Idiots que nous sommes, puisque la nuit gomme nos erreurs. Au fond de notre carré noir, Marie, une lueur d'espoir. Alors j'oublie ce qui m'obsède chez toi, qui n'a pas inventé l'eau tiède, crois-moi. Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère de loin. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère de loin.
Horizontalement, à l'instant, une chanson qui ne fait pas partie de ton livre, Yvan, mais dont tu nous as proposé l'écoute pour justement mettre en avant parfois cette non pas duplicité, il ne s'agit pas de ça. Elle date de quand, cette chanson?
Oh, c'est 60, c'est au début, c'est les années 62-63.
Oui, voilà. Donc...
C'est sur le disque où il y a la montagne, tout ça, c'est Beau la vie, etc. Ça passait genre, ce qu'on appelait les faces B, quoi. Des chansons qui... Mais bon... Intéressant de l'écouter quand même, après La femme et l'avenir de l'homme.
Voilà, c'est quand même, c'est du même auteur, et effectivement, on peut être surpris, mais ça fait partie du parcours de Jean Ferrat. À propos du parcours de Jean Ferrat, je vais peut-être rappeler quelques dates. Dans ton livre, tu nous donnes quelques éléments biographiques pour présenter la vie de Jean Ferrat. Alors, je ne vais pas les lire tous, mais Peut-être en citer quelques-uns pour ceux et celles de nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas du tout la vie de Jean Ferrat. Le 26 décembre 1930, il naît à Vaucresson, dans le 92, hein, Vaucresson, ça doit être ça.
C'est pas 78, les Yvelines.
Bon, c'est
je vais vérifier.
Dans ce coin-là. J'en cite quelques-unes. Hein. Si tu m'interromps si jamais tu trouves que je passe un peu vite sur certaines. En 1954, il quitte son emploi pour se consacrer à la chanson. Donc 54, il a donc 24 ans. Il rencontre Christine Sèvres en 1956. En 58, il enregistre son premier 45 tours chez Vogue, qui ne connaît pas de succès.
Oui, oui, effectivement, je l'ai, ce 45 tours, avec Ma vie, mais qu'est-ce que c'est? Oui, ces chansons. Ah non, aucun succès complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas resté dans cette maison de disques. Alors après, une fois qu'il a été connu, ils ont sorti le disque, mais ça a fait un flop monumental.
Aussi, bon, bah voilà, donc c'était bien les chansons et pas tellement la distribution. En 1959, par l'intermédiaire de Christine Sèvres, donc il rencontre Gérard Metz, qui devient son ami, qui deviendra son éditeur et son producteur jusqu'à la fin.
Et qu'il l'est toujours, il a 88 ans, il s'occupe toujours des... Alors maintenant, on réédite moins de disques et tout, mais qui s'occupe de... D'ailleurs, j'ai eu affaire à lui, quand un livre sort, il faut... Il faut montrer patte blanche, il faut aller voir Gérard Metz, et puis alors ça, c'est le travail de l'éditeur. Hein. Mais enfin, comme je te disais hors micro, je crois... J'ai eu la surprise un jour d'avoir eu un coup de fil, j'étais dans la rue, je me rappelle, je vois un 06... Allô, c'est Gérard Metz.
Oh, ça doit être sympa.
Il m'a félicité. Ah. Pour le livre, il tenait à me féliciter parce que c'était l'angle que j'ai pris pour faire ce livre. Et puis, c'est bien de le rendre hommage 15 ans après sa mort, comme ça. Donc, il était content. Alors qu'il paraît qu'il est un petit peu. Il y a eu quelques auteurs avec qui il s'est fâché, des auteurs de biographie.
D'accord.
Et donc, il surveille de près. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est un personnage, c'est lui qui l'a découvert et qui a essayé de l'imposer dans une maison de disques. Personne n'y croyait. Et lui, il a mis l'avant sur la table. Il dit, mais moi, je m'en occupe. Et c'était pas évident. Et après, Ferrat est resté fidèle à Gérard Metz. Il y a ça aussi chez Ferrat, c'est une fidélité. Il a gardé le même chef d'orchestre pendant toute sa carrière, Alain Goraguer, du début à la fin. Son éditeur, Gérard Metz. Alors, les maisons de disques, c'est plus compliqué, mais Barclay, puis après, quand Barclay a été vendu, parce que c'est aussi ça, hein, c'est que Barclay a été vendu aux Américains, là, Universal, hein, c'est pour ça qu'il est parti aussi. Hein. Et il le disait. Enfin, donc, une fidélité. Donc, Gérard Metz, c'est important. Effectivement, cette rencontre, ça a permis. D'ailleurs, il a enregistré Ma Môme juste après la rencontre avec Gérard Metz.
Oui, voilà, c'est la date que j'avais citée. Ouais. Mais dis-moi, ça doit être émouvant, quand même, d'avoir un appel de Gérard Metz, quand même.
Oui, c'était parce qu'on était dans nos petits souliers. Même les éditeurs, ils connaissent. Hein, ils disent, oh là là, Ferrat, faut pas mettre trop de chansons, parce que si on met toutes les paroles, ça... Bon. Alors, donc, vous voulez voir ça aussi. Puis, les photos. Je voulais mettre la photo de la partition de Camarade. Et ben voilà, c'était pas évident du tout. Mais oui, j'étais content parce que une petite fierté. Je me dis, bon, ça veut dire que j'ai pas dit trop de bêtises.
J'imagine.
Et donc, voilà.
1960, donc il enregistre Ma Môme chez Decca avec un certain Milton Lewis aux arrangements. Milton Lewis n'étant rien d'autre que un pseudonyme utilisé par Alain Goraguer. Il utilisera d'autres pseudonymes dans sa carrière pour d'autres activités musicales, notamment des films. Des musiques de films on ne donnera pas forcément la nature.
Alors l'histoire de Milton, je vois de quoi tu parles, mais l'histoire de Milton Lewis, je crois qu'à l'époque c'était soit une histoire d'armée, il devait faire son armée, soit une histoire de contrat, parce qu'ils avaient des contrats, donc il ne fallait pas qu'il enregistre sous son nom, des trucs comme ça. Maintenant il y a prescription, puis belle lurette.
1963, il rejoint donc l'écurie Barclay, il enregistre Nuit et brouillard. En 1964, il rencontre l'Ardèche, d'une certaine manière. Il fait l'acquisition d'une vieille ferme à Entraigues-sur-Volane, en Ardèche, plutôt dans le nord de l'Ardèche, le dire. Et là, je passe un peu vite, parce qu'ensuite, tu nous énumères beaucoup des sorties. Et moi, je vais aller directement en 1972, son deuxième passage au Palais des Sports, 3 semaines à guichet fermé, avant une tournée de 6 mois. Et son dernier disque chez Barclay, mais aussi sa dernière tournée, son dernier moment sur scène, véritablement. Donc c'est quand même très tôt.
Hein. Oui. C'était pas un homme de scène. Ça le fatiguait. Il avait un problème pulmonaire, je crois. Et donc pour lui, c'était... il n'aurait pas pu faire de la scène très longtemps. Et alors, il n'avait pas dit à l'époque, j'arrête, c'est fini, je ne mettrai plus jamais les pieds sur scène. D'ailleurs, tout le monde désespérait, un jour ou l'autre, tout le monde lui demandait alors, quand, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais comme là, ça allait bien, puis qu'il avait beaucoup travaillé, ce que je disais tout à l'heure, il faisait un disque par an, là, il voulait un peu poser ses valises. Oui. Et donc il y avait l'Ardèche, la maison, et puis donc là il a un peu levé le pied, il a plus jamais fait de scène, parce que faut, c'est compliqué à mettre en route, les musiciens, les, bon après c'était devenu, la technique était devenue compliquée, donc là ça le fatiguait, donc il voulait plus le faire.
1975, il enregistre Nous en parlions, La femme et l'avenir de l'homme, et il signe son premier disque chez Témet, le label qu'il va créer avec Gérard Metz, T-E étant les deux premières lettres de son nom,
son vrai nom,
Tenenbaum, et M-E-Y étant les trois premières lettres du nom de Gérard Metz. En 1979, donc, dans ce label, il réenregistre la quasi-totalité de ses chansons. C'est aussi un sacré travail, hein, quand même.
Oui,
hein.
Un sacré travail, pour différentes raisons. Il expliquait justement que Bartley étant racheté par les Américains, par Universal, c'est qu'ils disaient, on n'a plus la main là-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer, si un jour ils veulent tout supprimer, il n'y aura plus accès à mes chansons. Donc, tandis que là, il était sûr que... Et puis, il expliquait aussi que la technologie étant, ayant évolué, que c'était mieux de mettre, de changer un peu les arrangements. Moi, honnêtement, je préfère, pour la plupart des chansons, les versions originales.
D'accord.
Parce que parfois, il y a des chansons, ils ont mis des guitares électriques, parce qu'on était en 80, pour faire, peut-être pour avoir aussi un public plus... Et ça passe pas très bien, je trouve, même si certaines chansons, par contre, sont plus réussies. Mais moi, je reste sur les versions Bartley que je trouve...
Les versions originales.
Oui, les versions originales.
En 1981, le décès de Christine Sèvres, qui est un moment qui est important, hein, et qui le marque profondément. Il aura une autre compagne après, hein, Colette Laffont.
Oui.
Avec qui il se mariera en 1992. Et puis, écoute, je vais aller assez vite... Il y aurait d'autres dates peut-être. Alors moi je vais aller directement à 2010, hein, pour dire que c'est le moment où il décède. Peut-être qu'il y a d'autres dates qui te semblent importantes à évoquer entre ces deux dates.
Non, parce qu'effectivement à la fin, bon, comme il était fatigué, oui, il y a les disques qui sortent, et le dernier disque, peut-être la sortie du dernier CD en 1994. Mm-hmm. D'ailleurs c'est là que je l'ai vu, parce qu'il était venu à Paris, il était venu à la radio, il était venu, c'est là qu'il... Donc là il est, pour ce très beau disque consacré à Louis Aragon, le deuxième, il disait lui-même un disque de longue haleine, de longue mémoire et de long désir, et qui sera, j'allais dire malheureusement, parce que je crois qu'il avait un projet d'en faire un autre, mais qui sera son dernier album, puisqu'à partir de 2000, il sera fatigué, il aura des problèmes de santé, donc il ne va plus travailler du tout. Donc ça sera son dernier disque, 1994.
Voilà, quelques repères biographiques pour rappeler à celles et ceux qui auraient oublié les dates avec un peu plus de précision.
Alors pour 2010, la mort, il avait 79 ans, il n'avait pas encore 80 ans puisqu'il était du mois de décembre. Il faut rappeler, parce que moi je l'ai vécu, il est mort le 13 mars, et le 16 mars, trois jours après, à Entraigues-sur-Volanne, il y a les obsèques qui ont lieu, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de le voir.
Absolument pas.
Ça a été retransmis à la télévision sur France 3 toute une après-midi, un après-midi de semaine. C'est la première fois qu'on retransmettait les obsèques d'un chanteur à la télévision. Ouais. C'était avant Johnny Hallyday, hein, parce qu'il y a eu Johnny quelques années après.
Oui.
Mais c'était avant Johnny Hallyday. Et il y avait 5000 personnes, c'était énorme, qui se sont déplacées, qui sont venues à Entraigues. On ne peut pas se garer, hein, donc ils venaient à pied. 5000 personnes qui sont rassemblées sur la place. Et qui ont chanté tous en chœur La montagne, d'ailleurs. Ça peut se voir, je crois, si on tape sur YouTube, obsèques Jean Ferrat.
Oui, j'ai vu ça.
Ouais. On voit des extraits. Il y a Isabelle Aubray qui était là, Gérard Metz.
Je ne sais même pas s'il n'y a pas l'intégralité du reportage.
C'est possible.
Ouais.
France Cassolville qui était là. Le frère de Ferrat qui est mort depuis, qui fait un discours très émouvant. Et ça a été retransmis à la télé, je crois qu'il y a eu 4 millions, parce que du coup, pour faire le livre, j'ai cherché et tout. Ouais. Il y a eu 4 millions ou 5 millions de personnes qui ont regardé. Les 3 heures d'obsèques à la télévision.
Ouais,
donc,
fou.
Pour dire que ça a été vraiment une date importante et que les gens étaient vraiment touchés de la disparition de Ferrat, qui était un chanteur, c'est ça aussi l'idée de ce livre, c'était à la fois un chanteur de conviction, un chanteur engagé, même s'il n'aimait pas ce mot-là, qui défendait des idées, mais aussi un chanteur très très populaire, que les Français ont beaucoup aimé. C'était très... Parce que chez les chanteurs engagés, c'est plus compliqué, mais lui était vraiment un chanteur très populaire que tout le monde aimait, et qui a eu vraiment un succès considérable. Il y a des disques qui se sont vendus, je crois que le disque où il chante Louis Aragon, le premier disque, en 71, il s'est vendu à 1 500 000 exemplaires. C'est énorme. C'est-à-dire maintenant, les disques, quand ils en vendent 3 000, ils sont contents. Mais 1 500 000 exemplaires, c'est-à-dire que
colossal.
Ça a été, tout le monde a acheté ça. Et il a fait quand même rentrer la poésie dans les foyers modestes, parce que
bien sûr.
On pouvait, tout le monde peut chanter du Aragon.
Après ces quelques éléments biographiques, on peut peut-être repartir en chanson. Je te propose de choisir celle que nous allons écouter maintenant.
Bah, peut-être celle-ci qui s'appelle... c'est le même disque où il y avait Pauvre Boris. C'est une chanson qui s'appelle En groupe, en ligue, en procession.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices. Avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste. Le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question. Quand elle vient d'un parachutiste, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation. En ont vu défiler par ordre des pèlerines et des bâtons sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai à preuve par quatre. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut le dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste.
Nuit Noire, Radio Libertaire, 89.4 FM, la voix de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni Maître. Je suis ce soir avec Yvan Perret et nous parlons de ton livre, Yvan, intitulé Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps. Nous venons d'écouter la chanson En groupe, en ligue, en procession.
Ben oui, chanson importante pour moi puisque je suis à la fois un brassensophile. Je ne sais pas si le néologisme est bienvenu, mais on comprend ce que ça veut dire.
Oui.
Je suis un brassensophile convaincu. D'ailleurs, on a déjà parlé ici du livre que j'ai consacré à Georges Brassens. Et aussi, je suis très admirateur du répertoire de Jean Ferrat. On en parle depuis tout à l'heure et depuis très longtemps. Et là, cette chanson, elle pose question. Parce que bien évidemment, je ne sais pas si des auditeurs ou parmi les plus jeunes ont compris les références, enfin les pics adressés à Georges Brassens. Parce que dans cette chanson, En groupe, en ligue, en procession, on comprend qu'il fait l'éloge de l'engagement collectif, hein, du combat de groupe. Et il y a, à un moment donné, il dit bien sûr, je n'ai qu'une seule consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et dans ce cas, on le reste. Et je crois que c'était l'année précédente, enfin peu de temps avant, Georges Brassens avait enregistré une chanson qui s'appelle Le Pluriel, Alors lui par contre, c'est l'anarchiste individuel. Il le disait dans les interviews, moi je crois pas aux solutions collectives, sinon j'irais manifester dans la rue, mais j'y crois pas du tout. Et il y avait cette chanson, le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de quatre, on est une bande de cons. Donc voilà, c'était une espèce d'échange comme ça par...
De réponse un peu, ouais.
De réponse, ouais, ou par ouais, chanson, ouais. Oui, interposée. Et donc, je trouvais intéressant d'évoquer cette chanson-là, alors qu'on sait que Ferrat admirait Brassens, c'est un admirateur effréné de Brassens, il est allé le voir à Bobino en 62, au départ justement des chanteurs yéyé, etc. Et quand il a vu que Brassens remplissait les salles, il était très content, il a fait une chanson, une très belle chanson qu'on aurait pu entendre aussi, qui s'appelle « À Brassens », tout simplement. Jean Ferrat, ouais, il a fait une chanson « À Brassens ». Est-ce un reflet de ta moustache, ou bien tes cris de mort aux vaches, qui les séduit de tes grosses mains maladroites? C'est du tout cuit, les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines riches de toi. Enfin, voilà.
Ah bah,
belle
donc,
chanson, hommage à Brassens, de Jean Ferrat.
Qui tu l'as dans l'oreille aussi.
Oui, je l'ai dans l'oreille, oui, c'est une très belle chanson qui rend hommage à Brassens. Et là, bon, bah, il lui dit carrément, c'est con, quoi. Ouais. C'est con. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rencontrés, Jean-Pierre Chabrol, l'écrivain Jean-Pierre Chabrol était responsable d'une émission qui s'appelait L'Invité du Dimanche, en 69, et il les a fait venir tous les deux, et dans la même émission, avec Ferrat qui chante la chanson en groupe, en ligue, en procession, devant Brassens. Et après, Chabrol leur dit, je crois que vous avez des trucs à vous dire tous les deux. Il lançait le truc, il s'est dit, ça va péter. Et ça, c'est un document, je ne sais pas si on peut en écouter un extrait ou si on peut en lire un extrait, mais tu vas me le dire.
Il est disponible sur une plateforme de partage de vidéos, donc je te propose qu'on... Enfin, je ne sais pas si l'intégralité est disponible, mais enfin, une bonne partie, hein, je crois une dizaine de minutes.
Parce que c'est tout à fait passionnant. Là, je peux conseiller aux gens, ouais, de bien écouter, parce que à la fois, il y a le respect mutuel, et en même temps, chacun campe sur sa position.
Tout à fait, ouais, ouais.
En disant, je suis d'accord, je comprends ce que veut dire Ferrat, je comprends ce que veut dire Brassens, en même temps, et c'est vraiment un plaisir de les écouter. Cet échange, cette réflexion sur l'engagement, c'est très intéressant.
Est-ce qu'on n'écouterait pas la chanson « À Brassens » en sortie de ce petit plateau ?
Je te laisse faire ta cuisine.
Allez, faisons la cuisine.
Vous avez peut-être des choses à vous dire.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On se les dit quand on se rend compte.
On se les dit quand on chante.
Parce que, ah bon ? C'est déjà différent, ça. Hein ?
Ah non, moi, j'ai jamais rien dit à Ferrat en chantant. C'est lui qui me répond de temps en temps à mes chansons.
Oui, de temps en temps.
Ça te fâche ?
Pas du tout. Il le sait très bien que ça ne me fâche pas.
Mais Ferrat, lui, sa position est tout à fait différente. C'est assez curieux, d'ailleurs. Hein ? Ouais, bah, curieux, sa position, ouais.
Mais je sais pas, tu vois, je crois que... Personnellement, la démarche individuelle est extrêmement importante. Elle est même capitale. Mais elle ne remplace pas l'autre. C'est-à-dire que seul, on ne peut pas grand-chose. On ne peut même rien, pratiquement. Si on n'est pas entouré. Et si on a une action, pour avoir une action possible et efficace, il faut être en groupe.
À ce moment-là, quelqu'un qui saurait discuter politique te citerait Gandhi ou... D'autres exemples. Des exemples.
Ça ne me convainc pas.
Ça se convainc. Et pourquoi ?
Mais parce que Gandhi a eu une action.
Tu crois à la force, toi ?
Je crois pas à la force. On est dans un monde qui utilise la force et la violence. On est au milieu de la violence. On la subit. Bien que souvent ça soit enrobé de guimauve pour la faire passer.
Mais comment ça, enrobé de guimauve ? De chance ?
Non, non, pas de chanson. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde extrêmement violent.
Tu ne vas pas le torturer toute l'après-midi, le jour du Seigneur.
Tout guindé, tout...
Non, on n'est pas guindé, non, mais on vit dans un monde atroce. Mmh. On subit des pressions considérables. Enfin, il y a des gens qui sont...
Mais Georges le ressent aussi bien que toi, ça. Tu sais qu'on vit dans ce monde.
Enfin, pour moi, les choses, si tu veux, sont claires d'une certaine manière. Mmh. En gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités, bien entendu. En gros.
Je crois que tout ça, nous sommes tous du côté du condamné, si tu veux. C'est Victor Hugo, c'est un fusil, j'en suis. On est forcément du côté du fusil, on n'a pas de cœur, quoi.
Mais c'est tout à ton honneur, mon cher.
Ah, merci.
Bon. Les mots sont une source de malentendus. Tu vois, Ferrat sait très bien, il ne l'a pas dit, mais il le sait, que je ne suis pas du côté des exploiteurs. Moi, c'est du reste assez connu, quand même.
Oui, mais je crois que c'est ça. Il y a une définition de chaque mot, il y a une confusion, parce que les mots, en fait, les grands mots,
bah, les mots
c'est la
liberté. Pour chacun, voilà. C'est bien sûr.
Non seulement pour chacun, mais je crois que les mots ont une signification différente en fonction de l'époque à laquelle ils appartiennent et ensuite à travers à la classe à laquelle qui les exprime, à travers lesquelles ils sont exprimés.
Moi, tu sais, je n'ai jamais cru aux solutions collectives. C'est une opinion tout à fait personnelle et très discutable. Alors, ne croyant pas aux opinions collectives et ne croyant pas, étant contre personnellement sur le plan de l'esthétique, dans le domaine de la chanson, étant contre l'efficacité, je m'entends. Je ne tiens pas, par exemple, à donner d'explications et à donner une morale, à indiquer les voies que je pense qu'il faut suivre ou ne pas suivre. Je me borne, si tu veux, à donner mes impressions en face de problèmes, même si je ne les traite pas, les problèmes, ils sont implicites, ils sont sous-jacents, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup. Ils sont là-dessous. Alors, si tu veux, j'explique dans mes chansons une espèce d'attitude individuelle, parce que je te dis pourquoi je ne pense pas que si j'écrivais des chansons, je pourrais être tellement efficace. Je pense être plus efficace, en ce qui me concerne, en faisant des petites chansons qui apportent 4 ou 5 minutes de bonheur. Bon, bonheur est un mot un peu grand, un peu vaste. 4 ou 5 minutes de joie à certains, à pas tout le monde, bien sûr, à ceux qui les aiment. Et j'estime en faisant ça, à des gens qui sont exploités du reste, j'estime en faisant ça n'avoir pas trop démérité. Voilà, c'est. Oui, si je croyais, tu penses bien que si je croyais, je me trompe peut-être, si je croyais à l'efficacité, j'en ferais des chansons, parce que bien sûr, je pourrais les faire. Parce que c'est relativement, ça me serait relativement facile de le faire. Si je ne le fais pas, c'est que d'abord, je ne me crois pas le droit de dire aux gens ceci est bien et ceci est mal, parce que je ne le sais pas tellement moi-même. Et ensuite, parce que je te dis, sur le plan de l'esthétique, moi je ne suis ni un philosophe, ni un sociologue, je fais des chansons, je suis un poète mineur, mais un poète quand même, un faiseur de chansons, si tu veux, et je traduis mes émotions. Je parle pas trop souvent des fleurs parce que je ne sais pas le faire, mais en somme, si tu veux, c'est là, un bout de bois, un arbre, un fossoyeur, tu vois. Des petits problèmes quotidiens qui rejoignent aussi les autres quand même. Et puis je pense aussi que sur le plan de l'efficacité, on peut être efficace en étant indirect. Si c'est bien connu, oui, si tu dis « jeter la crosse en l'air, camarade » à des soldats, personne ne t'écoute, les militaristes ne t'écouteront pas. On peut, je crois, faire ça par le biais, enfin, là vous m'obligez à parler, alors je ne suis pas venu ici pour parler, je suis venu pour chanter.
Non, mais nous en revenons à ça. C'est que, parce que tu parles d'efficacité, il faut être sûr de la vérité.
Non, croit à la solution.
Finalement, nous doutons tous les deux, Jean-Pierre. Nous doutons, nous sommes.
Ferrat croit à l'efficacité et croit à la solution collective. Alors, il fait ce qu'il croit devoir faire. Mmh. Et il a raison, il sait très bien tout à l'heure, tu nous dis.
D'ailleurs, moi, je ne crois en rien. Je vois très bien ce qui va mal, je souffre
pour
ce qui va mal.
Je
vois pas la solution. Allez, vas-y.
Mais je ne me rappelle plus maintenant, c'est fini. Non, tout à l'heure, tu nous as dit, Jean Ferrat, vous en voulez tout ça. Pourquoi s'en voudrait-on avec Ferrat? Ferrat,
mais non, on s'en veut pas.
Ferrat fait
tout.
Des chansons. J'insiste là-dessus. Ferrat, à certaines, n'approuve pas toutes mes chansons. Et moi, je n'approuve pas non plus toutes les siennes, mais cela ne veut rien dire. Tu sais, quand je lis de très grands poètes, plus grands que nous, qui ne sont pas du tout des poètes d'ailleurs, je n'approuve pas tout ce qu'ils disent. Moi, j'aime beaucoup Victor Hugo, par exemple. Je dis ça au risque de passer pour un fossile. J'aime beaucoup Victor Hugo, je n'approuve pas tout ce que dit Victor Hugo, mais même quand Victor Hugo n'est pas... Quand je ne suis pas d'accord avec Victor Hugo, j'ai l'impression quand même que j'ai tort. Quoi. Si j'aime Victor Hugo, je dois le prendre tel qu'il est, tout entier. Quoi. Et c'est pour ça, alors j'aime bien Ferrat. Alors si Ferrat fait une chanson que je n'approuve pas tellement, je la prends quand même parce que c'est lui qui l'a faite et parce que je l'aime beaucoup, et il en va de même pour lui. Ça ne l'empêche pas de répondre, ça, mais ça c'est pas grave. Quand on se parle entre nous, quand on se dispute, tu en parlais tout à l'heure, on se jetait au nez
nos convictions,
Ferrat fait la même chose, quoi.
Il nous jette au nez ses convictions.
C'est-à-dire, je crois... Non, je me fâche pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Georges. Je pense, si tu veux, que finalement, c'est une définition et un sens de ce que doit être l'art en général qui en fait, peut nous séparer dans une certaine mesure. Est-ce que l'art ne peut pas changer le monde? Bien sûr.
C'est pas sûr que l'art ne puisse pas changer le monde. L'art pur peut sûrement changer le monde.
Je crois qu'il peut.
Je crois que c'est l'art explicatif qui peut difficilement changer le monde.
Il ne peut pas changer le monde, il peut donner la conscience à chacun de la nécessité de le changer.
Si tu veux mon opinion, moi je pense que tant que les hommes ne seront pas changés, rien ne sera changé dans le monde. Alors tu vois, c'est une
évidence. Mais alors là, moi je suis exactement de ton avis opposé.
Et j'ai peur que l'homme ne soit pas prêt de changer. Non pas que je le trouve très mauvais, mais enfin.
Je pense que
même dans une société tout à fait parfaite, je crois que l'homme inventerait encore parce qu'il est très industrieux, il est très imaginatif. Il inventerait quand même, il trouverait le moyen de foutre la pagaille.
Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches? Qu'il est séduit de tes grosses mains maladroites quand tu leur mets dessus la pâte, c'est du tout cuit. Les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines, riches de toi, comme dans les histoires anciennes, deviennent vierges et souveraines entre tes doigts. Entre tes dents, juste un brin d'herbe, la magie du mot et du verbe pour tout décor. Même quand tu parles de fesses et qu'elle rime avec confesse, ou pire encore, Bardo peut aligner les siennes, cette façon de montrer les tiennes ne me déplaît pas. Et puisque les dames en raffolent, on ne peut pas dire qu'elles soient folles des oh gracias. Toi dont tous les marchands honnêtes n'aurais pas de tes chansonnettes donné dessous. Voilà que pour leur déconfiture, elles resteront dans la nature bien après nous. Alors qu'avec tes pâquerettes tendras mon cœur fraîche à ma tête jusqu'au trépas. Si je ne suis qu'un mauvais drôle, tu joues toujours pour moi le rôle de l'Auvergnat.
Yvan, nous avançons et je voudrais énumérer peut-être les chansons qui composent ton livre avec une forme d'exhaustivité, si tu veux bien.
Bien sûr.
Vous trouverez donc dans ce livre les chansons suivantes. Ma môme, Nuit et brouillard, La montagne, Potemkin, Le sabre et le goupillon, En groupe, en ligue, en procession, Pauvre Boris, Cubassi, signé d'Henri Gougaud, l'occasion de saluer la mémoire d'Henri Gougaud, Au printemps, de quoi rêvais-tu, Ma France, Camarade, La femme et l'avenir de l'homme, Un air de liberté, Le bilan, Les cerisiers, Dans la jungle ou dans le zoo. Et il y a, pour conclure ton livre, un petit moment particulier dédié à Aragon, où tu vas nous parler de quelques chansons d'Aragon, mais dans ton travail de recherche, est-ce que tu as démêlé un peu cette idée du « je chante pour passer le temps, je ne chante pas pour passer le temps » Tu vois à quoi je fais référence?
Oui.
La chanson de Léo Ferré, signé d'Aragon, « Je chante pour passer le temps », et une forme de réponse, que moi j'ai toujours un peu considéré que ça comme une réponse, de Jean Ferrat qui va chanter quelques années plus tard « Je ne chante pas pour passer le temps ».
Oui, j'en parle pas du tout de ça, mais effectivement, c'est souvent une réflexion qu'on s'est posée, pourquoi il a appelé ça comme ça, je ne sais pas, pour passer le temps. Comme Nuit et brouillard, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, ça fait penser à l'affiche rouge, vous étiez 20 et 100,
ils étaient
23 quand les fusils fleurirent, etc. Non, là, je n'évoque pas ça, alors effectivement, ça pourrait être une réponse, mais cela dit, on sait combien Ferrat admirait Aragon. Je chante pour passer le temps. Je sens pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre. Mmh. Oui, c'est une chanson encore sur le temps qui passe et sur la vieillesse, sur, entre autres. Et je ne chante pas pour passer le temps, c'est pour dire qu'il ne chante pas uniquement pour passer le temps, mais pour dire des choses, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc voilà, alors est-ce que c'est une réponse à Aragon? Ça, je ne pourrais pas le dire.
J'avais interrogé Daniel Panchenko à ce sujet-là, oui. Et qui m'avait dit non, on ne voit pas forcément ça comme un défi de l'un envers l'autre, il ne faut pas le voir comme ça. Mais je t'avoue que...
Oui, ça interpelle.
Ouais, pour autant, vraiment...
Ça interpelle.
La dénomination non, mais... de la chanson.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce que... Ce que je dis dans le livre et ce qu'on a peut-être souligné un petit peu tout à l'heure rapidement, c'est que Ferrat admirait Aragon depuis toujours et sa première composition, ça aussi je l'ai un peu réalisé en faisant le livre, sa première vraiment composition à la guitare, c'est un poème d'Aragon qui s'appelle « Les yeux d'Elsa ». En 1956, qu'il a joué dans les cabarets.
À la guitare, ouais.
À la guitare, Les yeux d'Elsa. Et son dernier disque, 40 ans plus tard, c'est un disque consacré à Louis Aragon. Et entre-temps... Il y a un poème d'Aragon dans chaque disque, pratiquement. Ouais. En tout cas, dans les années 60, là, chez Barclay, il y a toujours une chanson d'un poème d'Aragon qu'il a mis en musique. Donc, il a vraiment... c'était vraiment son poète...
De prédilection, oui,
bien sûr. De prédilection. Mmh. Et donc, il a toujours chanté Aragon. Et grâce à lui, d'ailleurs, Aragon est devenu très populaire. Ce que je disais tout à l'heure, on a pu la poésie rentrer dans les foyers. Parce que quand c'est le succès qu'ont eu ces chansons, il est resté fidèle. Il a chanté un poème d'Apollinaire, que moi, j'aime bien, qui s'appelle « Si je mourais là-bas », mais sur la guerre de 14. Mais sinon, il a toujours chanté Aragon, donc c'était... Alors là, pour le coup, dans le livre, j'ai eu un peu de mal, si c'est ça la question, parce qu'autant les chansons, bon, j'ai trouvé facilement 15 chansons de Ferrat à parler. Aragon, c'était plus difficile, parce que si je mettais les plus connus, c'est « Que serais-je sans toi, nous dormirons ensemble », je pouvais parler de ces chansons-là, que tout le monde connaît, mais... Il n'y a pas eu grand-chose à dire, si ce n'est de faire une analyse d'un bon élève de première pour le bac français, que serait-ce en toi, expliquer les métaphores et tout. Alors, j'ai cherché d'évoquer d'autres chansons. Alors, Les yeux d'Elsa, parce que c'est sa première composition, et puis c'est quand même un poème particulier qui demande peut-être quelques explications, puisque ça parle aussi de la guerre. Les yeux d'Elsa, ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure, c'est sa première composition, qui a été chanté à l'époque par quelqu'un qu'on a complètement oublié, qui s'appelait André Clavaux. Mmh. Et André Clavaux, c'était vraiment pas un chanteur engagé, c'était vraiment pas un... C'était des roucoulades, c'était un monsieur charmant, hein. Je l'ai vu au téléphone une fois quand je faisais de la radio, mais qui faisait des... Voilà, il a consacré un disque, il a fait cette chanson-là, et je crois que c'est la première fois que Ferrat s'est entendu à la radio, a entendu une de ses compositions... à la radio en disant ça y est, on me chante, parce qu'il avait fait la musique.
Oui, donc, puis c'était un nom, André Clavaux, quand même.
Oui, complètement, hein. Oui, ouais, c'était un interprète, oui, oui. Donc je me dis, il faut évoquer Les yeux d'Elsa, et deux poèmes que j'aime beaucoup, deux chansons, c'est J'entends, j'entends, et Un jour, un jour. J'entends, j'entends, qui est peut-être la plus belle réussite d'Aragon, le poème d'Aragon mise en chanson.
Un jour, un jour est pas mal quand même.
Un jour, un jour est pas mal.
C'est subjectif. Là, hein.
Mais Aragon lui avait dit lui-même, parce que c'est quand même pas mal, avec cette musique qui aussi entre l'espoir et la résignation. Ce que j'entends, j'entends, c'est quand même. Je cite aussi Francesca Solville, qui est toujours là, et Francesca Solville. Elle le chantait, elle a beaucoup chanté, on aurait pu écouter une version par Francesca Solville, elle a beaucoup chanté Ferrat dans toutes les fêtes politiques partout, à droite, à gauche, enfin plutôt à gauche qu'à droite. Elle a chanté, et elle dit, j'ai trouvé ça que je cite dans le livre, c'est que, à propos de J'entends, j'entends, j'en ai tant vu qu'ils s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Elle se souvient de la réaction du public dans une fête populaire à Aubervilliers. Elle dit « Mes yeux sont tombés sur les premiers rangs, j'ai été frappé par leur connivence avec les mots de la chanson, par notre compréhension mutuelle. Dans une telle situation, tu comprends pourquoi tu chantes. C'est tout simple. Je chante encore, j'entends, j'entends, parce qu'elle s'adresse vraiment à l'âme des gens. » Et donc, c'est vrai que je trouvais ça assez joli.
Là, c'est beau, oui.
Et c'est vrai que c'est une chanson qui parle aussi de la communication avec les plus humbles. Et un jour, ben... Oui, alors un jour, c'est plutôt un hymne d'espérance. Hein. Ouais. Un jour viendra couleur d'orange, un jour des pôles nus où les gens s'aimeront, c'est magnifique. Et là aussi, la chanson de la musique de Ferrat est particulièrement réussie. Donc je parle de ces deux chansons-là. Et la dernière, c'est Épilogue, alors qui n'est pas connue. Mais alors, je trouvais ça bien de finir par une chanson qui s'appelle Épilogue. Et puis, je ne sais pas si tu connais, ça dure 7 minutes, ce qui est rare chez Ferrat. Et là, c'est un peu un bilan, c'est un truc qu'Aragon a écrit à la fin, et il fait un peu le bilan de ses combats, et donc c'est quelque chose qu'il faut écouter. C'est pas facile, il a mis des années à mettre en musique cette chanson, à trouver un refrain, parce qu'il voulait mettre un refrain. C'est une chanson de fleuve, qui fait près de 8 minutes avec 15 quatrains. Et donc, voilà, ça m'a permis de réécouter ces chansons-là et d'en parler.
Ça t'ennuie si je passe parmi les quatre, si je passe un jour?
Non,
c'est la privilégie, j'aime énormément cette chanson.
Donc... Avec un hommage à l'intérieur de la chanson à un autre poète, c'est Federico Garcia Lorca. Hein. Dieu le fracas que fait le poète, un poète qu'on tue. Le poète, c'est Federico Garcia Lorca, qui a été tué par les fascistes espagnols, bien évidemment, et qui était aussi un poète que vénérait Ferra, qu'il a découvert très jeune. Et donc, je fais un encadré sur Federico Garcia Lorca. Parce que...
Il lui fait une chanson, d'ailleurs, je
crois. Oui, au tout début, il y a une chanson qui s'appelle Federico Garcia Lorca. C'est une des premières chansons de Ferra, c'est vrai. Et il disait, j'aime beaucoup Lorca, mais je l'aime aussi parce qu'il représente le mythe de la poésie assassinée. Et je ne voudrais pas qu'on oublie les gens qui sont responsables de sa mort. Donc il avait dit ça également.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ce bourreau. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et Lorca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous. Et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand les Romains l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ses manteaux de paroles, le paillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Nuit noire sur Radio Libertaire avec Yvan Perret. Nous avons parlé ce soir de ton livre « Jean Ferrat, un chanteur témoin de son temps ». Avec donc une vingtaine de chansons, j'imagine que tu aurais pu en parler, tu aurais pu parler de bien d'autres chansons. Tu as été un peu limité, non ?
Oui, non, non, je trouvais que 20 chansons c'était pas mal. Oui, bien sûr, à chaque fois on se dit « tiens, pourquoi pas celle-ci ? J'aurais pu en mettre 25, j'aurais pu en mettre 30 ». Mais déjà, la 20 chansons, c'est pas mal, où on aurait pu en mettre d'autres. Mais en tout cas, il y a les 10 ou 12 incontournables. Oui. L'éditeur avait l'air de trouver ça. S'il m'avait dit qu'il faudrait en rajouter, ben, j'en aurais peut-être rajouté.
Il t'avait donné des...
Non, c'est moi qui avais proposé. Et puis,
Alors l'éditeur, c'est Le Bordelot. Et la collection s'appelle Le Miroir aux chansons.
Oui, alors c'est bien de parler de ça ici, puisque je sais qu'il y a des amateurs de... de chansons qui écoutent Radio Libertaire, parce que c'est une collection dans cette maison d'édition Le Bordelot, qui est une maison d'édition bordelaise, comme son nom l'indique peut-être. Mm-hmm. Ils sont à Bordeaux. Ah, et il y a cette collection, Le Miroir aux chansons, qui est dirigée par Jean-Paul Liégeois. Et ça me plaît bien de le citer, parce que c'est lui qui, c'est à lui que j'ai eu affaire essentiellement pour préparer le livre, pour choisir les photos, etc. Et il y a eu d'autres livres consacrés à la chanson de Michel Triauro, qui connaît bien la chanson, qui participait à Paroles et Musique et à Chorus, et qui a fait un livre sur Guy Béard. Il y a Patchinko, on en a parlé, qui a fait un livre sur Aznavour. Et sur Nougaro, récemment, qui est sorti récemment, avec des interviews. Il y a un livre sur les...
Le bouquin Nougaro, c'est Au bord de l'eau aussi.
Hein. Oui. Il y a un livre sur la chanson de l'écluse, sur les cabarets, qui est très très bien, Marc Chevalier et Laurent Carmé. Ils ont édité, après la mort de Michel Buller, un recueil de textes qui s'appelle Raser les Alpes, qu'on voit la mer.
La chanson de l'écluse, c'est l'écluse, le cabaret.
Oui, le cabaret de Barbara, oui. Et puis, Jacques Layani, qui a fait un livre sur Léo Ferré.
Bien sûr.
Je crois, non, même si depuis, il n'y en a pas un autre. Mais un livre sur Léo Ferré, un archipel. Donc voilà, il y a de quoi lire et c'est une belle collection.
Si, il y en a un autre après, en 2022, Léo Ferré, jour après jour.
Oui, bah voilà.
Chronologie,
oui,
c'est Jacques Layani.
Chronologie, oui, jour après jour. Donc il y a deux livres sur Léo Ferré dans cette collection. Et donc, dorénavant, un livre sur Jean Ferrat.
Puis on voit Michel Buller également. Raser les Alpes, qu'on voit la mer.
Oui, je l'ai dit, c'est l'intégralité des textes. C'est paru peu de temps après sa disparition, parce que malheureusement, il nous a quittés un peu vite, Michel Buller.
Oui.
Et donc voilà, c'est des belles collections qu'il faut... si les gens veulent regarder sur Internet, c'est éditionbdl.com, BDL Bordelot, quoi. Édition avec un S à édition BDL, comme bordelot.com, et ils trouveront les références de ces livres. Je parle pas que pour moi, là, tous ces livres-là, c'est du beau travail, je le dis vraiment objectivement, j'en ai pas mal, j'en ai les trois quarts, c'est des beaux livres qui sont écrits par des gens qui connaissent la chanson, et c'est une belle collection qui mérite peut-être un peu plus de diffusion.
Eh bien, gageons que cette émission le permette.
Ouais, j'espère.
Et puis, comme on est sur cette page, la collection du Miroir aux chansons, il est rappelé également que du même auteur, c'est-à-dire toi, Yvan, nous avons également 120 chansons que l'on fredonne, petites histoires et anecdotes.
Mais ça, on ne le trouve plus.
On le trouve plus.
Sauf d'occasion. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de le rééditer.
Et enfin, Le Paris de Brassens, aux éditions Alexandrine, paru en 2021.
Oui.
Nous avons parlé de ce livre dans une émission précédente. Je voudrais également préciser que nous trouvons en annexe un certain nombre d'informations, les repères biographiques, je me suis servi bien évidemment de ton livre tout à l'heure pour les énumérer, une bibliographie assez exhaustive, je crois, sur Brassens,
sur Ferrat, pardon. Oui, je cite oui, bien sûr, moi j'aime bien être cité quand... oui, bien sûr, tous les gens que j'ai lu, enfin les biographies que j'ai lues de Ferrat, et puis oui, effectivement.
Et puis une discographie
assez complète. Une discographie disponible, c'est celle qu'on trouve en ce moment, même si les gens n'achètent plus beaucoup de disques, on va sur les plateformes, il y a quand même des beaux disques qui sont faits, qui sont intéressants de voir, et puis il y a les dates,
Bien sûr.
Les dates d'enregistrement.
Et puis, il y a une autre partie, alors là, moi, où je vais vraiment retrouver ta sensibilité, puisque lorsque tu nous avais proposé une émission musicale sur Léo Ferré, tu avais beaucoup insisté sur les interprètes de Léo.
Oui, oui.
Et là, tu cites un certain nombre d'interprètes de Jean Ferrat, et tu nous parlais tout à l'heure de Francesca Soléville.
Bah oui, bien sûr, parce que c'est comme ça que la chanson se transmet. On parlait de transmission, et là, ça va de Michel Arnaud à Zebda, hein, puisque c'est par alphabétique. Et on trouve à la fois Benjamin Biolay, Patrick Bruel, mais aussi Juliette Gréco, Pauline Julien, Catherine Sauvage, Christine Sèvres, bien sûr, Francesca Soléville, et puis d'autres, Hubert Félix Stéphane qui avait chanté Nuit et brouillard. Ouais. Et c'était à la guitare électrique, c'était quelque chose.
Ah oui.
Et donc, et encore, ils n'y sont certainement pas tous là, parce que c'est tellement compliqué maintenant de trouver les interprètes. Mais André Claveau, voilà, il est cité, je l'ai sous les yeux. Philippe Clay et d'autres, oui, tous ces chanteurs. Et puis des plus jeunes, Natacha Esdra, qui est à Entraigues, et qui sera au Festival Jean Ferrat. Il y a le Festival Jean Ferrat, s'il y a des gens qui sont en Ardèche, qui est à Entraigues le 20, 18, 19, 20 juillet, là, cette année, dans quelques jours.
Bien sûr.
Festival Jean Ferrat en Entraigues, et c'est toujours très intéressant. Et là, il y a du monde, il y a des chanteurs, et Natacha Esdra y sera très certainement, puisqu'elle est là-bas, elle vit là-bas.
Je dois aussi dire aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire que dans le courant du mois de juin, tu as fait une présentation de ton livre à Malakoff, dans le cadre de rencontres organisées par une association, je crois, le Dakoté.
Oui, c'est ça. D'à côté, c'est des chanteurs. C'est un groupe de chanteurs, François et Hervé, qui chantent. Et je faisais, lorsque je fais de temps en temps, une petite conférence, c'est un mot un peu, une petite causerie, où un peu ce qu'on fait là. Je parle des chansons et eux, ils chantent, et avec des photos. Et donc, je présente les chansons comme ça, et puis eux, les chantent. Et donc, c'était assez agréable devant des Malakoffios. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Malakoff.
D'accord.
Francesca Soléville est de Malakoff, d'ailleurs. Et oui, je le fais aussi le 5 juillet en Champagne.
Ah, voilà.
Avec un comédien qui dit des textes, d'ailleurs, d'Aragon et de Ferrat. C'est à Bergère sous Montmirail, c'est dans le cadre du Festival Grange.
D'accord.
Il faut taper Festival Grange.
Oh, je vais trouver ça, oui.
Mais oui, Festival Grange au mois de juillet.
Voilà, je le renseignerai sur le blog. Très bien. Eh bien, Yvan, je te remercie grandement d'être venu jusqu'au studio de Radio Libertaire.
Mais merci pour cet accueil.
Une nouvelle fois, j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Hein.
Ben, j'espère aussi.
Tu viens quand tu veux, tu sais que la porte t'est grande ouverte.
D'accord, maintenant je commence à connaître le lieu.
Je crois que ça va. Et je te laisse bien évidemment choisir la chanson avec laquelle nous allons terminer ce programme.
Oh ben, on va terminer avec une des chansons sans doute les plus emblématiques et une des plus réussies, je trouve, du répertoire de Jean Ferrat. Une chanson qui date de 1969. Alors, chanson Jean Ferrat témoin de son temps, il ne pouvait que témoigner de mai 68, qui a eu lieu quelques mois auparavant. Et donc, il fait un disque en 69 où plusieurs chansons évoquent plus ou moins directement les événements de 68. Il y a une chanson qui s'appelle « Au printemps, de quoi rêvais-tu ?» qui est sur le printemps 68. Il y a « Un jour futur » d'Henri Gougou. « Un jour futur, j'avancerai parmi des millions d'hommes. »
Très belle.
C'est aussi suite à mai 68. Et puis cette chanson qui s'appelle « Ma France », qui a été un succès considérable auprès du public de Jean Ferrat. Là aussi, elle n'est pas passée en radio tout de suite, parce que quand on écoute bien la chanson, il parle de tiers, il n'en dit pas que du bien, mais ça, bon, encore, ça passe. Mais il dit aussi, quelque part, il parle des gouvernants, la France, celle dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Et ce « vous », c'est dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, ça s'adresse très certainement au chef de l'État de l'époque. Et c'était Général de Gaulle. Il ne savait pas à l'époque que de Gaulle n'était plus là pour très longtemps, parce qu'il y a eu le fameux référendum six mois après. Il a dit « si vous dites non, je partirai ». Il est parti. Mais donc voilà, toujours est-il que la chanson, quand elle est sortie, n'est pas été interdite à la télé, sauf à partir de 1970, quand de Gaulle n'était plus là, il a fait sa première télé avec « Ma France ». Donc, c'est une petite anecdote pour dire, là encore, l'histoire de la censure et des gouvernants vis-à-vis de Ferrat. C'est l'ORTF hein, qui avait créé le général de Gaulle, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, Ma France, après, bon, ben, on connaît la chanson. Ce que je raconte, c'est qu'il voulait l'appeler d'abord Pauvre France, au départ, il voulait appeler cette chanson, il voulait faire un constat à la pauvre France en s'attaquant à la bourgeoisie qui dirige la France. Et puis, il a revu sa copie et il a dit, ben, je vais plutôt montrer ce qui est beau, enfin, ce qui lui plaît. Et il raconte l'histoire de France à sa manière, avec, bien sûr, le siècle des Lumières, la Révolution française, les droits de l'homme et les noms qu'il cite, soit ceux de Robespierre ou de Hugo, ou de Deluard, ou de Picasso. Et voilà, donc, fort belle chanson, qui a été reprise aussi par Isabelle Aubray, par François Cassolville, par Natacha Esdra, et même plus récemment, par les Ogres de Barbac, je ne sais pas si tu connais.
Oui.
Et avec François Cassolville qui chante avec eux, ça doit se trouver, ça sûr. Ou les Stentors, un groupe qui s'appelle les Stentors. Enfin, c'est pareil, c'est toujours un repris, donc c'est bien. Alors, c'est quand même une chanson aussi qui a 50 ans, qui a même plus de 50 ans maintenant, hein, qu'on est à 55, hein. Donc, voilà, grande chanson avec une sacrée musique. Et donc, voilà, oui, j'en parle un petit peu. Je parle de l'ORTF parce que c'est quelque chose qui a disparu. Je parle d'Adolphe Thiers dans les encadrés dont on parlait tout à l'heure, qui était vraiment Adolphe Thiers, qui était quand même qui a réprimé les communards dans le sang. Et je parle aussi du Chant des Partisans, qui est une autre chanson qu'on connaît bien, parce que. Quand il dit qu'elle monte des mines, descend des collines, qu'elle monte des mines, descend des collines, c'est copié sur le Chant des Partisans, hein, bien sûr. Donc, monter de la mine, descendez des collines, camarades. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil à.
Ce soir du sang noir, voilà. Au grand soleil.
Chanson des Partisans. Donc voilà, ma France, pour terminer cette émission, Jean Ferrat.
Merci beaucoup, Yvan.
Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
Partagé. Et à très bientôt.
À bientôt.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines,
celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.